Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode. Épisode 7 ouais. De Tier List. Toujours avec la même équipe. Yérim. C'est maintenant.
Salut.
Sandra et Mehdi.
Yo.
Let's go. Je suis trop contente de nous... Ah, pardon. Je vais gagner.
Mais ça, c'est l'émotion.
On est ensemble, je suis fatiguée.
On est heureux.
Non, ce confinement m'épuise, pardon. Désolée pour ce dérapage. Je suis super heureuse qu'on se retrouve pour un épisode encore thématique où nous allons parler des Gilles du rap francophone.
Mm-hmm. Exactement.
Voilà. Est-ce que j'annonce les Gilles? Non.
Non,
parce qu'il y a évidemment une blague de Yérim.
Yérim, bien sûr.
Tout à fait.
Donc, bon, ceux qui écoutent le podcast, en fait... Vous verrez peut-être la blague, mais c'est pas grave. Nous, on l'annoncera au fur et à mesure.
Vous allez la comprendre.
Ouais, et puis, on fait ce qu'on veut, quoi.
Mm-hmm. Donc, c'est vrai, final, tu le dis beaucoup, ça.
Ouais, parce que j'insiste, parce qu'en fait, on prend du plaisir à le faire et que souvent, vous avez des exigences, ce qui est normal, parce que le podcast vous plaît beaucoup. Mais en vrai, l'idée, c'est de faire...
De se faire plaisir.
De se faire plaisir, mm-hmm. uniquement.
Voilà. Il s'agit que de ça, yo.
À la régulière.
À la régulière, yo.
Ok.
Bon, il faut faire un petit point sur le classement.
Alors on est sur un top 26.
Ouais, on top de mandat.
26.
Donc le top 5. Alors il y a eu une entrée. On nous l'a. Il y a des gens qui nous l'ont reproché. Mais comment vous pouvez mettre Himalaya? Eh, on peut.
Donc on fait
Himalaya.
C'est ce que je dis. On fait.
Est rentré cinquième. Beaucoup de gens nous reprochent de ne pas avoir mis Shuriken plus haut et de laisser SCH devant. Ça se défend en vrai, mais bon, c'est notre. On est 4 et donc on a voilà Shuriken où je vis en 4, A7 en 3, Alpha One UMLA en 2, La Ferté et Nôtre toujours numéro 1. Puis après voilà, il y a un énorme voilà, plein d'autres choses, Cyborg en 7 qui pourrait être plus haut, NTM en 6, Imani en 10. Voilà, bref, en tout cas, il y a déjà beaucoup de
ouais,
albums.
Mais là, on avance notre petit.
On peut dire qu'en tout cas qu'on a eu deux tops. Albums qui sont rentrés quand même, c'est Où je vis et Himalaya, mm-hmm. deux immenses classiques la dernière fois,
ouais.
Et un petit flop avec Dernier Round quand même, qui est entré très bas.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Aujourd'hui donc spécial Gilles.
C'est ça, et on va commencer avec un jeune rappeur.
Le meilleur des Gilles.
Ah, alors Sandra annonce déjà.
Comment c'est pas.
Mon Gilles préféré.
On va commencer avec...
C'est pas la même chose.
Pas la même chose.
Oui, voilà. Son Gilles préféré, Ateyaba, ex Joke.
Ouais.
Pardon, parce qu'on dit des albums. Là, on a décidé, parce que ouais. on fait
ce qu'on veut.
Voilà.
Évidemment.
On n'allait pas faire l'album Ateyaba, mais ces deux premiers EP qu'on a regroupés. Donc, Kyoto et Joke. Enfin, pas ces deux premiers EP, parce qu'il y avait prêt pour l'argent avant.
Ouais.
Kyoto et Tokyo, excusez-moi.
Ouais.
Mais du coup, Kyoto et Tokyo étant sortis à quelques, enfin, en 2012 et 2013. Mm. On s'est dit que c'était un projet qu'on allait regrouper, qu'on allait classer ensemble, parce qu'en plus, il y a quand même un ADN commun, mm-hmm. des producteurs communs,
exactement.
Bref. Donc, on décide que c'est le même projet et que c'est un seul album.
C'est ça.
Voilà.
Faisons.
Let's go alors.
Sandra, t'as envie de présenter Joke ou pas?
Apparemment, c'est le meilleur des Gilles.
Écoute, c'est mon Gilles préféré en tout cas. On a commencé avec le premier épisode avec un Gilles que j'aime le moins, on va dire.
Dont on va reparler aujourd'hui.
Donc là, vas-y, je vais me faire un peu plaisir. Bon, en général, les fans sont ceux qui parlent le moins bien des artistes. Donc je vais essayer de ranger mon fanatisme.
Ah, toi, tu te considères comme une fan?
Moi, je suis fan de Joke.
Okay.
Je suis fan de Joke. J'ai suivi c'est son début de carrière. Ces deux projets-là, je me suis pris à fond. L'album, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et malgré l'absence qui dure depuis 6 ans, je continue à écouter ses projets. C'est pas des projets que j'ai délaissés. Moi, personnellement, je trouve qu'ils vieillissent bien. Mais je peux comprendre que ce soit pas l'avis de tout le monde, parce que Joke, ça a toujours été ça, en fait. C'était soit c'est un génie, soit c'est inaudible. Et il y a eu souvent des avis très tranchés sur lui. En tout cas,
ouais.
Moi, personnellement, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Ce qu'on a tendance à dire de lui aujourd'hui, c'est qu'il a été avant-gardiste dans le rap français. Moi, je pense qu'on dit ça à juste titre. Je pense pas qu'il a révolutionné le rap français au moment où il est arrivé. Par contre, est-ce qu'il a amené quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans le rap français? Moi, je pense que oui. La dernière fois, on en parlait. Tu me disais que c'était aussi quelque chose de générationnel, peut-être. Je pense que effectivement,
c'était hors antenne,
mais on en a déjà discuté.
C'est
mais
vrai,
ça
je t'embêtais aussi un peu.
Mais j'ai réfléchi à ça justement parce que effectivement, je pense que si t'écoutes du rap américain depuis 10 ans déjà et que tu découvres Joke, t'as pas la même réaction que
ouais.
moi qui commence un petit peu à approfondir ma science dans le rap, entre guillemets, et je découvre Joke, et là, du coup, j'ai l'impression d'apprendre des trucs, et en tout cas, il m'ouvre à d'autres horizons, j'ai l'impression qu'il m'a rendu un peu plus exigeante sur la musique dans le rap français, parce que je venais d'un rap français qui était assez pauvre en termes de musicalité.
De prod, et, de style aussi,
ouais,
je pense.
En termes de prod.
D'esthétique, ouais.
Ouais, voilà. Et en fait, là, je me régale parce que il y a de la lumière partout, en fait. C'est très bien imagé, le côté japonais aussi. C'est vraiment, il y a de la lumière partout, il y a une esthétique, il y a de la musique. Il y a, sur le projet Kyoto, c'est limite, sur chaque son, il y a une ambiance différente. Il y a du rock, il y a un peu de dubstep, il y a du truc un peu de jazz, il y a une reprise de Gainsbourg. Donc, t'es un peu émerveillé de tout ce que tu vois. C'est pour ça que je comprends aussi que des gens n'accrochent pas, parce que c'est une proposition qui est assez différente et particulière. Mais moi, ce que je vais adorer, donc, c'est la proposition que je valide à fond. Je découvre des choses, et aussi la personnalité de Joke. J'adore la nonchalance totalement assumée. Je trouve qu'il l'incarne très bien. Il a une espèce d'énergie de mal dominant. Désolé du terme. Hein.
Mais mal alpha, mais dis-le.
Non mais voilà, les meufs et le rap et tout, j'en ai rien à foutre. Je le dis, je le ressens comme ça, tu vois. Ouais, il a une énergie de mal dominant, un côté, un magnétisme assez puissant, je trouve, et qui se ressent aussi dans son rap. Et j'accroche à ça. Et comme tu le disais, l'esthétique et les visuels, là, pour le coup, c'est un des premiers rappeurs français où je m'éclate dans ce qu'il propose. Il propose des clips, il va au Japon, il fait des super beaux clips. Son style aussi, à lui, c'est pas quelque chose qui va faire que je vais aimer sa musique ou pas, mais ça transparaît un goût pour l'esthétique, en fait. Je pense
ouais,
que
ça va ensemble.
Ouais, ça va ensemble, tu vois. Et donc moi, c'est un rappeur qui m'a toujours éclaté. J'ai beaucoup aimé ses deux projets. J'ai beaucoup aimé Ateyaba ensuite. J'attends le reste, mais bon, en tout cas pour.
Il y avait même aussi le projet avec 2000, tu sais, début 2014, un EP gratuit
oui,
qu'il avait.
Dolorean
Music, merci. Ah, pour l'argent, c'était avant, ouais. Il avait sorti après Ateyaba un truc gratuit qui était assez cool aussi, avec des morceaux qu'on jouait en réseau et tout. Enfin, c'était cool. Ouais. Moi, je vais essayer de moins. Enfin, on va essayer de faire un peu peut-être un peu moins long que d'habitude parce que voilà, en tout cas de. Parce que en tout cas, je vais pas répéter ce que tu viens de dire parce qu'en fait, moi, globalement, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que je te vannais un peu avant parce que pour moi dire le meilleur des Gilles alors qu'il y a il forcément je dois sortir un carton jaune mais en revanche et moi parce qu'on avait beaucoup de discussions sur Joke à l'époque et tout moi j'ai adoré ces projets là pour moi si on veut je pense que tous les gens qui nous écoutent connaissent Joke mais si on veut découvrir sa musique c'est ces deux projets là qu'il faut écouter. Ateyaba pour moi est un album que j'aimais bien mais qui m'a quand même un peu déçu notamment parce que je le trouvais trop long. Je trouvais qu'il y avait des choses qu'il avait essayé de faire qui réussissaient pas. Je trouvais aussi qu'il y avait ça, on en reparlera peut-être un jour, mais il y avait un moment où il a essayé de durcir un peu son image avec les morceaux type majeur en l'air etc. Et je trouvais que ça lui allait pas notamment dans l'esthétique. Et moi ce que j'aimais
même les feats sur l'album c'est le truc que j'aime
plus
le
par
moins
rapport aux feats.
Bah même majeur tu vois je trouvais que c'était parce qu'en fait là quand tu faisais des Ego Trip c'était Triumph et il y avait un truc que je trouvais différent. Il était pas full vulgaire, agressif, tu vois, un peu. Là, à un moment, je me suis dit, ah, c'est comme si il essayait de délaisser le côté un peu hype. Enfin, il avait toujours, mais comme s'il essayait de concilier deux trucs qui sont durs à concilier. Je dis pas que c'est impossible, mais qui sont durs à concilier. Et je trouve qu'il a pas réussi vraiment à le faire sur l'album. Là, sur ces deux EP là, je trouve que pour moi, c'est pas loin d'être parfait, en tout cas, dans ce qu'il a eu envie de faire, dans les prods. Donc ça, c'est. Voilà, je vais pas répéter ce que tu viens de dire parce que tu l'as très bien dit. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai énormément écouté Kyoto quand c'est sorti. Sur le côté avant-gardiste, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si, je suis d'accord parce qu'il a rien révolutionné. Par contre, par rapport à la scène rap de l'époque, il était à l'heure vis-à-vis des Quinry. Là où généralement on était en retard. Ouais. Et à l'heure, à tout point de vue. C'est-à-dire que musicalement, dans les influences, dans les flows, et aussi, ça pour le dire, dans l'esthétique. Parce qu'en fait, c'est évidemment l'époque où A$AP Rocky arrive, et je pense que c'est une influence majeure, tu vois, dans le positionnement de Joke à ce moment-là. Et ben, il le fait, je vais pas dire aussi bien que lui, mais en tout cas, il est à l'heure, quoi.
Ouais.
Je me souviens que moi, je me dis ça de lui, et un peu après de la MZ, où je me dis, tiens, c'est cool, on a des jeunes rappeurs, ils sont à l'heure avec les Quinry, ils le font comme il faut le faire, et ça me parlait à fond. Voilà. Après, moi, c'est un mec dont j'aimais bien même l'écriture, dont j'aimais bien le style. Donc, j'ai énormément écouté ça. Et pour moi, ça fait vraiment partie des projets du début de la décennie que j'ai énormément écoutés et qui pour moi ont été autant marquants qu'un Or Noir. Je dis pas que c'est aussi à ce niveau-là, de ce que j'ai écouté, de ce que je saignais à l'époque, c'était du, et c'est pour ça qu'Ateyaba, j'avais énormément d'attentes sur l'album, ouais, et que moi, quand je vois Ateyaba, enfin, Joke à l'époque, Fit Pusha T, je fais, ah, et en fait, typiquement, c'est un truc qui m'a, ce morceau-là m'a vraiment déçu, par exemple, mais bon, pas résumer l'album à ça. Mais voilà, en tout cas, sur à la fois l'équilibre entre morceaux un peu durs, morceaux ensoleillés, qui sait super bien faire,
putain,
tu
génial.
Vois, morceau un petit peu, j'aime pas dire ça, mais genre pour les meufs, mais on voit ce que je veux dire, parce qu'il y avait cette ambition-là, de parler en tout cas à la gente féminine, et morceau pour l'aïe. Je trouvais que cette équation-là, il arrivait vraiment à super bien la résoudre, en fait. Et en ça, c'était un peu nouveau, et juste sur le côté avant-gardiste, et là je te rejoins, c'est qu'en fait, et je l'avais déjà dit, donc je vais pas me répéter, dans un podcast de No Fun à l'époque, on avait fait carrément un épisode sur les enfants spirituels de Joke. Voilà, donc, tout est dit, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de rappeurs, même des rappeurs que j'écoute énormément, pour en citer un, c'est Hamza, qui clairement ont été largement influencés par lui, et je pense que c'est pas le seul, hein. Je dis Hamza parce qu'on va en parler dans l'épisode suivant, pour spoiler un peu, mais voilà, donc je pense qu'il a vraiment eu une importance, et c'est d'ailleurs ce qui est un peu compliqué pour lui sur un retour, c'est que maintenant il y a plein de gens qui rappent comme lui. Donc en fait,
je me demande ce qu'il va faire en fait maintenant.
Exactement, ouais. En fait, tout le côté justement exceptionnel qu'il pouvait avoir, en tout cas unique, aujourd'hui il y a tellement de gens qui finalement ont emprunté un peu son chemin, que c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui, et c'est peut-être aussi ce qui retarde, j'en sais rien, son retour. Mais voilà, en tout cas moi, voilà, c'est des trucs que j'ai énormément écouté.
Moi, je propose à Yérim d'enchaîner parce que je vais être un petit peu sur les mêmes tonalités que Mehdi et Sandra.
Ah, d'accord.
Allez, changement d'ambiance.
Moi, honnêtement, à la réécoute, on va dire, ça m'a moins.
T'étais très méchant à l'époque.
Bah, c'est-à-dire, à l'époque, je le trouvais vraiment insupportable à écouter, en fait. Et là, je trouve qu'en fait, ça a curieusement bien vieilli, mais c'est pas vraiment grâce à lui, c'est plus grâce à son choix d'instru. Après, ouais, je me rappelle en fait spécifiquement du moment où je l'avais découvert, et je crois, c'était encore à l'époque de MySpace, et il y a quelqu'un qui a balancé un lien, et c'était... il y avait Joke et Teki, donc il était avec Teki à texte.
Mes pelures sont plus belles que vos fruits.
Après, ça s'est retrouvé là, mais ouais, sinon
c'était... Ils ont Joke in Jay-Z, de Jay-Z.
Exactement. Et t'avais Marty McFly aussi.
Ouais.
Et je me rappelle que quelqu'un, justement, avait fait le parallèle avec Hill en disant, ouais, machin, on dirait qu'il y a une bénédiction sur les mecs qui font des égo trips nonchalants, tu vois.
C'était peut-être moi à l'époque.
Non, parce que justement quelqu'un ensuite avait dit ouais, mais il y a une grosse différence entre lui et il, c'est que lui c'est de la merde. Et en gros, mais c'était pas moi qui avait dit ça pour le coup vraiment. Mais c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc de, si tu le prends comme une adaptation VF de d'un mec qui a l'heure américaine, comme on a dit, et qui suffisamment nonchalant, confiant et puis doué en termes de flow et d'écriture, tu veux dire oui c'est cool, c'est une bonne adaptation. Par contre, ouais, dès que t'essaies de le vendre en mec qui révolutionne le rap français, bon là ça marche plus du tout, parce que forcément, à moins vraiment de pas du tout écouter de rap américain, tu vas forcément retrouver des trucs.
Ouais.
Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas... Alors ça a changé, parce que maintenant des fois, il a tendance à revendiquer ce côté « j'ai apporté un nouveau truc », mais ouais, en fait, quand t'écoutes ses lyrics, il est complètement décomplexé par rapport à ça, c'est-à-dire que tu sens... déjà, tu sens une petite influence Booba, et puis même, après, il va...
Qui revendiquait,
tu vois, à ce moment-là. Même un truc un peu plus inattendu, c'est, je crois que c'est sur « Bonne journée » ou « Fin de journée », où en fait il reprend le sample du truc de Solar,
ouais,
de Nouveau Western, je crois.
Tout à fait.
Et
Blastar.
L'instru de Blastar. Et en gros, t'as un moment où t'es, en gros, tu sors de l'album et tu sens vachement le côté à la fois Harlem par rapport à Cameron sur le côté super insolent et en même temps qui rappe jamais énervé. Et puis après sur le côté wannabe superstar, pour le coup, plus à la Jay-Z. Mais en gros, tu sens le côté Rocafé, là, tu vois, d'une certaine époque. je crois qu'à un moment donné, il parle de porter une cape violette. Ça, ça c'est ouais, c'est méga Cameron. Ah ouais, quoi, bon, bah, donc
il était quand même assez pointu sur ses rêves. Et même moi, je me souviens que la première fois que j'entends parler de l'illusiver, c'est dans une interview de Joke à l'époque. Okay. Et c'est en 2013-2014. Mmh, mmh. Donc il était, tu vois, il était vraiment sur.
Mais il y a le Japon, mais il y a aussi le futur. Il a un délire futuriste aussi.
C'est ce qu'il avait en commun avec Tequila Tech, c'est-à-dire, c'est ouais, obsédé voilà. par le futur. Ouais. Tu vois.
Non, et après, par contre, là, l'énorme galère, c'est, donc, tout ce qui est mal alpha, je sais pas, mais disons que c'est quand même un énorme problème quand, comment dire. C'est-à-dire que, moi, chaque fois que je l'écoute, et ça s'est calmé avec le temps, mais je vois, en fait, une sorte d'enfant qui joue à être un rappeur et qui est très doué, mais qui a vraiment cette espèce de barrière. Et l'énorme problème, c'est quand tu le fous à côté, par exemple, d'un Niro, bah, t'as l'impression que t'as un rappeur et qu'à côté, t'as un cosplay de rappeur. Et du coup,
à juste titre, sur ce morceau-là, il essaye,
il
va...
juste dire que c'est le morceau Scorpion Remix.
Ouais, voilà. C'est ça. Pour le coup, Bien McTayer aussi.
Extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un morceau extraordinaire. Je trouve que tous les couplets sont chauds, mais c'est vrai que là, c'est le début où je trouve que Joke, c'est ce que je disais, il essaye de durcir l'image, tu vois. Et je trouve que moi, ça lui va pas, ça. Ça, c'est le bémol que j'ai. Je trouve qu'il aurait juste dû jouer le côté cool, laid back,
Bien. Bah, c'est-à-dire, le truc, c'est que c'est pas forcément, en termes de discours ou pas, c'est, parce que faudrait pas croire que c'est parce que Niro a une apparence et un style un peu plus vénère ou quoi. Moi, c'est plus dans la présence, en fait. La présence, c'est vrai que dans l'interprétation, il y en a un qui t'as l'impression que tout est naturel chez lui et t'en as un autre, t'as l'impression que c'est l'inverse, que tout est artificiel. Et du coup, moi, en fait, c'est plus ça qui va me bloquer. Et pour le coup, ça, c'est un peu un point commun dans le négatif que je lui trouve avec Nekfeu, c'est que t'as l'impression que c'est des mecs qui ne s'amuse jamais au micro, alors que c'est pas le cas, tu vois. Parce que ça se voit que lui aussi, c'est un amoureux de rap. Pas seulement grâce à ses références, mais même le côté pointu dans le choix de certaines instrus, même de certains flows qu'il choisit, etc. Mais c'est vrai qu'il a le côté, t'as l'impression qu'il boude dès qu'il est au micro, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est chiant. Ensuite, t'as...
Après, c'est un style, c'est de la nonchalance, quoi. Moi, je le vois plus comme de la nonchalance.
Ouais, mais le truc, c'est Cameron, il peut faire ça en souriant, tu vois.
Ah, mais qu'il n'y a, tout le monde n'est pas Cameron. Ouais, mais... Marrer, lui.
Non, mais parce que sur l'outro de Scorpion, pas la version remix, ouais. Joke s'amuse. Ateyaba s'amuse sur ce truc-là. Mais c'est un des trois morceaux où t'as l'impression qu'il s'amuse, en fait.
D'ailleurs, juste par rapport à Type 7, tout ça... Il est affûté avec Max B, tu vois.
Oui, oui, alors ça, c'était pour le coup, ça, c'était un truc, même à l'époque, qui m'avait fait kiffer, c'est, ouais, d'avoir ce mec qui te ramène Max B, puis qui a l'air, en plus, c'est même pas pour le flex, parce qu'en vrai, en France, Max B, personne savait qui c'était exactement. C'est vraiment lui qui s'est fait un vrai kiff et tout, donc tu voyais qu'il était sincère dans son amour de ce rap-là et tout. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai vraiment avoir tendance, après, je savais même pas que c'était ça, sa vraie bio, mais qu'on te dit quand même que ouais, qu'en fait, il a déménagé à Montpellier, qu'il se faisait tellement chier, que c'est comme ça qu'il s'est mis au rap. Et tu dis ouais, ça s'entend, en fait. C'est-à-dire, ça, il y a vraiment des trucs.
Après, juste, je trouve que sur l'album Ateyaba, je trouve qu'il y a plus de moments où il s'amuse. Il y a des morceaux un peu plus comme Vénus ou New Jack City, je crois, des trucs comme ça, où quand même, il se détend un petit peu. Je peux être d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur Kyoto et Tokyo. Mais j'ai trouvé que c'était réussi plutôt dans Ateyaba, ça.
Mais là, on est là pour juger quoi?
On parle du début de sa carrière aussi, tu vois.
Non, le début, c'est Prêt pour l'argent et c'était vraiment horrible.
Prêt pour l'argent, c'était assez dur. Je suis assez d'accord.
Bon, c'est mon tour?
Ouais,
bien sûr. Excuse-moi. Non, mais juste un truc, parce que sinon, je vais oublier.
Dis-le, mais
je voulais juste dire un truc, c'est qu'il y a aussi un truc qui est cool, surtout sur À partir de Tokyo, c'est le côté aussi, enfin, cool ou pas, si on aime les rapprochements avec des producteurs électro, je pense à Gucci Vump, Brozinski, Guillaume Brière, qui sont quand même des choses, encore une fois, qui sont de plus en plus présentes maintenant.
Et ça, c'est déjà amorcé.
Voilà. Je dis pas que c'est lui qui a ramené ça.
Non, parce
qu'en fait, le 113 avec Thomas Bangalter, voilà. Mais il a quand même remis ce truc-là aussi.
Il a commencé avec Orgasmic, d'ailleurs.
Ouais, voilà, bah voilà.
Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Du coup, Joke, c'est un rappeur pile poil en plus de ma génération que j'attendais, enfin, dont j'étais heureuse de voir arriver, parce que pour moi, parmi cette génération de là, il y a 89-90, donc tous ces mecs-là dont on parle, Rimmer, Harlemite, à leurs heures perdues, Multi, etc. On va pas les citer, vous voyez de qui je parle. Pour moi, lui, c'était celui qui, à ce moment-là, en tout cas vers 2010-2011, donc là, je step back un peu par rapport à la période des projets dont on parle, avait été en mesure de délivrer quelque chose qui était le plus mieux digéré.
Ouais. Plus abouti.
C'est-à-dire qu'il a exactement les mêmes influences que Alpha One, ou que Gene Barbigo, ou que Nefeu,
ou que Infinite, hein,
ou
déjà.
Que Infinite, Max B, Freeberg, bah, ils s'entendent déjà de ouf sur ça. Que Esprit Noir aussi, Deep Set, etc. Donc, c'est la génération 89-90. Mais qui, lui, à ce moment-là, en 2010, est capable déjà tout de suite de proposer quelque chose. Pas forcément de très bien, parce que Prêt pour l'argent, je suis d'accord. Enfin, moi, je trouve pas ça horrible. Moi, à ce moment-là, je suis trop contente qu'il y ait un gars qui fasse ça. Même si je comprends pas tout, parce que je vois qu'en fait il identifiait avec, en tout cas le fait qu'il ait été repéré par quelqu'un de la scène électro, lui donne ce cachet là tout de suite, mec qui fait de l'électro alors que pas forcément. Il le disait justement dans cette interview, cette fameuse interview de l'ABCDR, où en fait c'est pas parce que j'ai été repéré par
c'est pas lui qui a choisi,
voilà, par quelqu'un, par Tequila Tex, que j'essaye de faire les choses pour me distinguer.
Tu as revu l'interview, tu t'en souviens?
Je m'en souviens.
Putain.
Et moi, je l'ai revue et je vous conseille d'aller la voir juste pour l'intro.
Et la chemise que je porte. Et la pomme que mange Joke.
Et du coup, ouais, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'interviews de Joke. Ouais. Du coup, je m'en souviens. Et genre, parce que justement, moi, j'avais un peu ce truc de, est-ce que c'est un frime? Est-ce que genre, c'est un mec hautain? Est-ce que, genre, moi, je fais mieux que vous? Et donc, il avait dit que non, en fait, comme il s'était fait repérer par Tequila Tex, ça pouvait donner cette impression qu'il allait faire les choses différemment.
Il a dit, du coup, on choisit pas ses opportunités.
Voilà.
Donc en gros,
exactement,
voilà.
C'était ça. Et donc ça moi, pour moi, c'était vraiment excitant de voir quelqu'un qui allait tout de suite oser et pas avoir peur dans un seul et même projet. Donc je parle de Prêt pour l'argent parce que c'est vraiment le premier projet que j'ai écouté, aller sur des trucs, il y avait des phases B très soulful de morceaux de rap US, mais il y avait des trucs super acides électro, donc il y avait plein de trucs. Évidemment, comme tous les projets, comme tout premier EP ou tout premier projet d'un rappeur, t'essayes plein de choses, mais lui, il essaye mieux que les autres pour moi. Et il y a déjà quelque chose de super, pas préfabriqué, mais déjà super marketable, parce que bon, voilà, il est frais, il s'habille bien, il est arrogant, il chie clairement sur les gens, faut pas avoir peur de le dire. C'est le MCing new-yorkais, bousillé, biberonné, en fait. Mm-hmm. Donc moi, ça me parle évidemment en tant que Harlemite. À partir de là, il glisse, sur les deux EP. Moi, j'ai une grosse préférence pour Tokyo, et je vais pas redire ce que vous avez dit, parce que voilà, moi j'adore cet aller-retour entre tout plein de choses qu'il aime bien de la scène américaine, mais moi je le préfère quand il est soulful, clairement. Mmh. Max B, c'est encore aujourd'hui, vraiment, je l'écoute, ça me fait un bien fou. J'adore quand il va sur ces textures-là, mais quand il est aussi sur des choses plus électroniques, mais faut que ce soit quand même, faut qu'il y ait une basse bien énervée, et c'est pour ça que ça va me plaire, Majeur en l'air. Et Casboy, il me semble. C'est ça?
Non, je crois que c'était Thérapie.
Non, ouais, c'est Thérapie. Majeur en l'air, c'est Thérapie. Et Casboy, c'est. On est sur
Majeur en l'air, c'est
Thérapie. On est sur l'inertie.
Ah, on est sur l'inertie, pardon.
Extraordinaire.
Pardon, je vous confonds.
Et d'ailleurs, c'était juste un truc qui était sur SoundCloud d'Icaz, qui était une
oui,
prod un peu chelou.
C'était un remix. Il avait fait
exactement.
Un remix. Il
et
l'avait envoyé
et
à
Joe. Joe Kazi, en fait, moi, je le veux sur l'album et c'est un morceau. Encore une fois, qu'on joue encore.
Ouais, donc je confonds, en fait. Du coup, je confonds. Mais voilà, en tout ça, pour ça, ça n'enlève rien à ce que j'aime chez lui. C'est vraiment, quand même, quelqu'un qui arrive à, malgré ses deux, pas identité, mais ses deux amours de, à la fois la curiosité vers des choses différentes ou plus électroniques ou plus synthétiques et quelque chose qui est fondamentalement plus organique et chaud, il arrive à le faire, à faire un peu des va-et-vient entre ça ou des fois à mélanger les deux. Et oui, il a pas révolutionné, mais ça lui a donné un léger temps d'avance sur ce qu'on peut entendre aujourd'hui, sur certains rappeurs, mais aussi, pas forcément que musicalement, mais aussi même, je trouve, dans cette attitude dont parle Yérim, en fait, d'oser être vraiment... il a l'air de s'ennuyer, mais moi, je pense que surtout, il a vraiment ce perso fermé de rappeur qui est très égo. Et moi, ça me fait penser à Booba, parce que Booba, on a passé notre temps pendant des années à dire on sait pas ce qu'il pense, il est arrogant, il est fermé. Là, maintenant, il y a Instagram, on le voit, il rigole avec ses enfants et tout. Mais avant, c'était ça aussi, Booba. C'était vraiment le gars dont on pensait qu'il s'emmerdait à le faire, alors que pas du tout. Donc, c'est une sorte de tradition aussi du rappeur super égocentré que moi, j'aime bien et qui a existé à ce moment-là. Qu'on voit un peu plus aujourd'hui, mais qui est plus diffus parce qu'il y a les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est deux projets importants pour comprendre, en tout cas, à la fois des artistes comme Hamza, mais aussi comme Josman. En fait, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, ont pris des choses chez Joke et qui se ressemblent pas du tout. Donc Hamza, c'est pas du tout la même musique que Josman, par exemple, mais pourtant, pour autant, c'est des personnes qui me font beaucoup penser, des artistes qui me font beaucoup penser à Jook. Donc
qui nous faisait penser à un moment peut-être un peu
ou un moment oui mais... à un moment dans plus dans le rap pour un Josman et plus dans la musicalité et dans les choix artistiques pour un Hamza, hein. C'est pas forcément
et encore Hamza, si tu écoutes Recto Verso, qui est le projet de 2013, qui est son projet méconnu, le morceau Recto Verso, c'est du Jook. Vraiment. Et c'était avant qu'Hamza justement trouve sa formule et devienne le prince des temps modernes, en fait. Donc c'était un peu avant ça. Personne n'a réagi. Ah, c'est cool. C'est cool que ça, on puisse dire ça normalement maintenant.
On est fatigué. En fait.
Mais vraiment quand il était en mode rap, c'était vraiment ouais. Jook à fond, quoi. À fond.
Et aussi pour rajouter, moi j'aimais bien que ce mec-là qui aime la rime, etc., soit moins dans la science que ceux qui.
Ouais.
C'est pas quelque chose que je ressentais. Enfin, tu vois, il y avait un truc de je le fais parce que j'aime bien, mais limite, je me rends pas un peu, d'ailleurs, comme si on est un peu quelqu'un qui l'aime pas trop, mais un peu comme Kekra d'ailleurs, qui pour moi est un bon rimeur et qui est un peu dans ce truc de je rime. Et bah, pour moi, Jook, c'était un peu ça aussi et ça me plaisait beaucoup. Voilà.
Mais après, Jook, pour moi, il était plus dans la revendication de la punchline que de la technique pure.
Ouais.
Enfin, il avait tendance à se vendre plus.
Ouais, plus là-dessus. Sur ça, quoi. Et pourtant, ça rime sur 2-3 syllabes.
Ouais, non, bien sûr.
Tu vois, mais donc ouais. C'était ça qui était cool.
Est-ce qu'on essaie d'aller un peu plus vite que d'habitude? Est-ce qu'on classe?
Ouais,
on a déjà beaucoup de choses.
On est bien là.
Ok, très bien. Alors, je sais pas si on peut nous montrer le classement qui est déjà extrêmement chargé. Donc on va classer les deux en même temps, hein. Je rappelle, c'est un épisode spécial Gilles. Tous les rappeurs s'appellent Gilles aujourd'hui. Se prénomme Gilles. Alors, où est-ce qu'on le met? Donc on va mettre Kyoto Tokyo, hein. Tu sais, écoute, si tu sais
dire. Je le mettrais en 8.
Ah oui. Ah, oui. Et ben moi j'allais voir plus haut.
Ah ouais?
Ouais. Non, mais moi je vais et qu'on me dise pas on le pense sincèrement.
Ah, bah,
moi
sûr,
oui, je préfère
cet album qui donc est un album depuis aujourd'hui à Supreme NTM.
Mais moi aussi, voilà. Mais moi c'est juste le Nekfeu qui me bloque quand même.
Moi j'ai plus écouté, j'adore Cyborg. Non mais moi j'ai dit j'adore Cyborg, mais je préfère l'association Kyoto Tokyo que je mets donc moi personnellement en 6e derrière Himalaya. Voilà, c'est là où je le mets.
C'est vrai que c'est cohérent derrière Himalaya quand même.
C'est un bon, je trouve que c'est un bon duo. Voilà, moi je le mets 6.
Ok, 6.
Sandra 8.
T'es à la calculette?
Yes.
Donc ça fait 8 plus 6.
Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a envoyé un message qui m'a dit oui, vous devriez arrêter de faire des moyennes, on veut que vous confrontiez, on est 4, ça va pas ou quoi? Les moyennes.
Non, mais déjà l'épisode dure 2 heures, tu veux quoi?
ça va être compliqué.
Ouais, non. Nifa, t'as une idée?
Ouais, j'hésite vachement entre là où tu l'as mis et pas du et bien plus loin, mais c'est Nizet qui me bloque en fait parce que je me vois pas mettre Jook en dessous de Nizet, mais pour moi il était bien entre Sadek et McTayer. Bref, il va falloir que je fasse un choix.
Ouais. Moi il y a peu de déchets dans ce EP pour moi.
Je vais le mettre au-dessus de Sadek, donc 8e.
Donc 8
comme Sandra.
Ouais. Okay.
Yérim.
Non, moi je peux pas le mettre au-dessus de McTayer déjà, parce que je vais avoir le même problème qu'avec Niro, ouais. C'est-à-dire que c'est, genre c'est sympa les Gremlins, mais Alien c'est mieux, tu vois. Donc, non, ce sera au grand maximum.
Mais toi c'est cohérent, hein. Déjà à l'époque t'aimais pas du tout, donc on va pas te.
Ouais, non mais après comme je te dis, je trouve à la réécoute c'est mieux.
Parce que t'étais pas prêt mon petit pote, t'étais pas prêt pour le futur en 2012.
Mais même en vrai, je sais plus, il y a une prod de Eyo Marie et c'était déjà quelqu'un qui bossait avec Anderson Paak.
Ouais, tout à fait.
Et à cette époque-là, personne en fait ici connaissait Anderson Paak. Il avait vraiment des exigences.
Oui, il a déjà Fashion, qui était exactement la même génération qu'eux, mais qui était un mec de ah ouais, franchement, c'était cool. Fashion, j'ai oublié.
Fit avec Action Bronson très très tôt. Ouais. Très très tôt. Dans lequel.
Non, mais quand tu dis en avance sur plein de plans, c'est
rare. Parle de Zidane.
Ouais.
du coup, je vais le mettre. Moi, je le mettrai en 15, c'est-à-dire au-dessus de la fouine.
Entre NAC et la fouine.
Ouais, c'est ça, tu vois.
Ouais, c'est honnête de ta part. Hein.
Donc, plus qu'un. Donc, ça nous fait 37 divisé par 4, ça fait 9,5.
Alors, 9,5. 9,5 pile
9,25, pardon.
Ah, donc il rentre en 9e, c'est ça que je veux dire.
Ouais,
il
n'y
a pas de.
9,25.
Très bien. Donc, ça rentre devant Vulgaire, Violent, Ravi d'être là. Kyoto, Tokyo. C'est pas mal. Et ouais, ça, derrière, Bâtard sensible.
C'est
cohérent. Tequila Tex, tout ça. Parfois, la vie est bien faite. Voilà. Donc, 9e position pour Kyoto, Tokyo de Ateyaba.
Bon, on n'a pas dit, mais il y a une phrase qui vieillit extrêmement bien, c'est « Les négros vont se gratter les veines pour le 16 titre. »
Ah ouais.
Parce que là, clairement...
Je pense à tous les fans sur Twitter.
Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que nous pouvons passer au Gilles suivant, s'il vous plaît? Okay.
La grosse marade.
Qui est d'ailleurs un petit peu aussi un teasing du prochain épisode.
Ah oui.
Ce sera spécial Belgique. Parce que c'est un rappeur belge. J'avoue, on voulait faire spécial Gilles. J'ai tapé rappeur Gilles dans Google. Et Scylla est sorti. Parce qu'on en avait que trois. Il nous en manquait un.
C'est horrible de dire ça comme ça. J'allais lui dire, mais faut pas le dire.
Mais la vérité. Non, mais moi, je vais dire du bien sur Scylla. Ce que je veux dire, c'est que je savais pas qu'il s'appelait Gilles. C'est ça que je veux dire. Pardon. Excusez-moi si j'ai été. Non, mais on dit la vérité aux gens.
Oui. Donc, on dit tout.
On fait ce qu'on veut aux gens.
Voilà. Je cherchais un Gilles.
On dit tout aux gens.
Je cherchais un Gilles. D'ailleurs, j'ai même pensé à JL Tismet.
Il s'appelle pas Gilles.
Il ne s'appelle pas Gilles du tout.
Il s'appelle comment du coup, Jean?
Je crois qu'en fait c'est
ça doit être Jean-Louis parce qu'il a toujours écrit.
C'est pas Jean-Louis en fait. Non. Je crois que c'est J le Tismet. Et donc c'est un
Jérôme.
Jérôme ou Julien, je sais plus.
Un truc comme ça.
Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Mais donc Scylla, pleine lune, premier du nom, parce que enfin premier volume, parce qu'il y a un deuxième volume. C'est un projet et c'est important de le dire en collaboration avec Sofiane Pamart. Voilà. Et donc je pense que Sandra, quand tu parlais de grosse marade, c'est que c'est vrai que là, pour le coup, c'est un grand écart avec Joke, aussi bien en terrain, au niveau des thèmes que de la forme, etc. Et que là, on est sur quelque chose de très... j'ai pas envie de dire dur, parce qu'en fait, c'est pas
mélancolique.
Forcément... Mélancolique. Voilà, très mélancolique. Moi, mon avis rapidement, c'est qu'en fait, je trouve que Scylla, il écrit archi bien.
Ouais.
Il a une des voix les plus reconnaissables et c'est un des rappeurs les plus limite charismatiques au micro, etc. Le bémol que j'ai, c'est que c'est très monotone. Et surtout que cet album-là, parce qu'en fait, il a fait des choses très différentes, hein. Et aussi par rapport à Bruxelles, c'est un mec qui est super implémenté dans la, voilà. Genre, quand tu parles de Bruxelles, avec des gens qui suivent ce rap-là de cette scène-là depuis longtemps, Scylla, c'est un nom qui revient beaucoup, notamment le morceau BX Vibe, qui était genre un peu un hymne de la ville, bien avant qu'on parle de Bruxelles-Vie, par exemple, ce genre de choses. Et en fait, cet album-là, je trouve que c'est un, je sais pas si, quelle tournée ils ont fait, etc., s'ils ont fait des représentations, mais je me dis, sur scène, ça doit être incroyable comme, tu vois, comme expérience. C'est un truc limite que j'aimerais voir sur scène, parce que même les morceaux qui me parlent peut-être moins quand j'écoute comme ça tout seul dans mes écouteurs, sur scène je pense qu'il y a vraiment un truc d'émotion et d'incarnation qui peut vraiment se faire, et parce que Scylla est charmé et que Sofiane Pamart est un super pianiste, etc.
Ouais.
Sur CD, c'est vrai que moi c'est pas, enfin sur CD, putain quel vieux, en tout cas quand j'écoute l'album comme ça uniquement sans avoir la scène et le visuel
sur le tourne-disque
sur le 45 tours mais voilà, c'est vrai que c'est un peu ça peut m'ennuyer un petit peu, voilà, sur le long terme, pour être.
Ouais.
Mais par contre, il écrit bien et il est fort et j'ai pas grand chose à reprocher, hormis que c'est pas vraiment pour moi. Mais par contre, que genre, pour moi, c'est un beau spectacle. Tu vois, c'est ça mon avis.
Je trouve que c'est autant le projet de Sofiane Pamart que.
Ouais. Celui c'est un projet commun.
C'est vraiment un projet commun. Je suis de ton avis. Je rajouterais simplement que je comprends pourquoi c'est pas ma vibe, parce que ça sonne à mes yeux quand même très chanson française. Sur beaucoup de morceaux en
fait. Piano voix,
tout simplement. Et le seul moment, le highlight un peu de l'album pour moi, ça va être le couplet de Isha.
Je voulais en parler, évidemment.
Avec la magnifique phrase « Le rap nous a sauvé la vie, il mérite d'être aux Beaux-Arts
».
Juste pour ça, enfin, bon, non, c'est un bon album, hein, mais c'est pas ma vibe. Ça fait un peu.
Isha fait du bien en fait à ce moment-là parce qu'il ramène autre chose.
En fait,
il y a un autre swing, tu vois.
Je trouve que le piano, ça marche mieux. Quand il y a un contraste, du coup, un flow très rap de Isha, très droit, ça va être plus, je trouve ça plus intéressant ce contraste-là que piano plus la voix de Scylla qui va faire un peu trop variété pour moi après.
Ok.
Nifa Yerim.
Bah moi, nul n'est sans savoir que j'adore la chanson française et la variété, donc ça va, j'y vais tranquille, mais juste, je m'en veux parfois de pas être capable d'être focus tout le long d'une écoute d'album de ce type, piano voix.
Ouais, mais c'est pas uniquement de ta faute en fait.
Oui, bien sûr.
Parce que ce que je veux dire, c'est que il y a pas forcément énormément de variété qui est amenée au projet, donc c'est moi ça me semble normal de décrocher. Parce qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que on n'est plus capable d'apprécier des albums un peu sérieux parce qu'on écoute tellement de trucs débiles tous les jours. Et en fait, ouais, mais peut-être, j'en sais rien, mais je pense pas. Et je pense que là, c'est aussi une proposition quand même esthétique qui peut te lasser. Tu vois, indépendamment de ce qu'il dit et du talent des
c'est
gens.
C'est comme un long morceau.
C'est, oui, ouais, non, voilà. Mais c'est une proposition. C'est une Ouais, je trouve pas finalement parce que il y a quand même. Moi, je trouve l'interlude par exemple Constellation. Elle m'a beaucoup touchée. Il y a pas de voix et donc j'ai quand même réussi à être attrapée par quelque chose. Et la formule piano voix, elle est. Elle est pas quasi pas universelle, mais on la connaît.
Ah oui, même dans le rap français.
Bah, c'est ça. Et donc, du coup, il y a peut-être ce truc d'abord, cette appréhension de la formule qui me semble pas vieillotte, mais peut-être désuète, qui fait peut-être que j'y vais à reculons, mais il faut y aller, il faut écouter. Et j'aime les beaux textes, j'aime ça. Donc, même si ça tire vers la chanson française ou vers quelque chose de plus variété, c'est pas censé me déplaire. Mais c'est vrai que pour le coup, comme il a une bon, il a une signature vocale, tu l'as dit vraiment forte, un timbre de voix qui moi me fait beaucoup penser à Cécen, un rappeur du 18e.
Ouais, tout à fait.
Donc c'est une voix qui me plaît. Les textes aussi, c'est un bon rappeur à la base. Donc du coup de décliner ça, de décliner son talent d'auteur sur une formule de piano voix. Ça marche, ça fonctionne, ça me plaît, mais c'est juste dans la consommation en fait. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce truc-là, c'est que emmener un auditeur sur tout un projet ou comme tu disais une longue chanson, même si elle est, il y a des moments un peu sans voix pour justement un peu aérer, etc. C'est plus là-dessus que je me suis posé des questions au milieu de tout ce qu'on écoute à côté en fait. Parce que voilà, l'exercice, c'est d'écouter ces albums-là avec.
Tu lances pas cet album n'importe quand, dans le bus, dans le métro, ou enfin, je sais pas. Je pense que ça correspond plus à un moment.
C'est ça, et ils sont difficiles. Clairement, tu vois, je l'écoute pas du tout de la même manière. Je peux faire 15 000 choses en même temps que j'écoute un Joke ou un Al Capote.
Moi, je l'ai écouté en allant courir.
Et donc moi aussi.
C'était pas le meilleur mood.
Moi aussi, j'ai compris que c'était pas du tout le mood.
Vous êtes des malades.
Non mais parce qu'on bosse. Hein,
bah oui, on fait plein de trucs quand même. Tu connais. Si mais en fait, j'ai compris sport, que pas okay. Du tout. Du coup, je suis passé à un autre album dont on va parler après, qui s'y prête plus. Mais ça t'invite en fait. Et je crois qu'il y a peu d'albums aujourd'hui qui t'invitent à arrêter ce que tu fais et à dire ok en fait non je vais pas pouvoir faire en même temps ma vaisselle ou je sais pas quoi il faut se poser être dans une écoute et on a plus trop de disques comme ça et c'est en ça que j'ai envie de lui donner du crédit
mais c'est un bel album
oui non mais parce que je veux pas être non plus tu vois dans le truc de ouais qui est super et tout genre c'est pas ce que j'écoute tous les jours et
ça parce que t'écoutes le plus.
C'est pas ce que j'écoute le plus.
Mais par contre, moi je suis. D'ailleurs, j'ai une idée de nouveau nom d'émission que je vais lancer bientôt. Je pense. Par contre, non, moi je soutiens le truc, c'est que en spectacle, ça tue.
Oui,
en fait,
voilà.
Tu vois, moi, c'est presque du théâtre, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais et ça,
non, mais ça suit. Ouais, clairement, ça. C'est quelque chose qui je pense a encore une meilleure dimension en live mais ouais voilà j'ai beaucoup aimé le projet quand je me suis mis dans les dispositions pour l'écouter et à y donner de l'attention genre je me suis dit ok l'exercice est vraiment cool ça marche super bien tous les deux ils se sont compris ils se répondent ils sont sur la même émotion donc en ça le job il est fait. C'est plus une question d'à côté ou parce qu'il y a pas de critique fondamentale à dire sauf si ça te plaît ou ça te plaît pas est-ce que c'est ta cam ou pas tu vois plus sur le fait que ça doit encore enfin qu'il faut qu'il y ait encore des albums qui te permettent de couper et de faire autre chose et de te concentrer sur la musique chose que j'ai de plus en plus de mal à faire en fait voilà c'était un moment
Confession.
Allez, Yérim, fais-nous rire.
Bon, écoute.
Danse maintenant.
Danse pour moi. Ouais.
Et Hamza aussi.
Et Hamza.
Ouais, mais plutôt.
Ouais, mais t'as vu, ils sont.
C'est vrai.
T'es allé toujours, tu places ton gars.
C'est pas moi, c'est elle.
Ah oui, c'est vrai, pardon.
Moi, je suis une poucave.
Je l'ai réécouté ce matin, c'est pour ça.
Ouais.
Non, bah, ça fait très. Je vois ce que vous voulez dire pour le côté chanson à texte. C'est-à-dire que c'est un truc ouais, qui t'invite, voire qui te force à vraiment prêter attention à absolument tout ce qu'il dit. Mais quand tu le fais, même si ça demande un effort, t'es pas déçu parce que pour le coup, il s'est vraiment cassé le cul à écrire. Bon, de toute façon, t'as un fil rouge dans tout l'album, mais même pour des thématiques qui pourraient être vraiment dites de manière beaucoup plus simple, à chaque fois, il trouve la bonne image, etc. Ouais. Enfin, t'as le château dans le ciel pour l'amour, le garçon et la mère pour la liberté, la clope sur la lune pour suivre ses rêves. Et en fait, il a que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc lui, pour le coup, ça sert à rien d'essayer d'isoler, parce que il va pas écrire sous forme de punchline et tout. C'est vraiment des textes à prendre en entier. Après, pareil, je trouve qu'ils se sont vraiment trouvés avec Sofiane Pamart, parce que quand Scylla était actif, j'allais dire en tant que rappeur, mais disons que quand c'était un rappeur classique, dans le sens traditionnel du terme, j'écoutais, mais il m'accrochait pas du tout. En fait, je le voyais un peu comme une sorte de Flynn de Bruxelles, ouais, mais qui aurait eu un peu la voix de Médine, et c'est tout, tu vois, il n'y avait pas d'autre... Genre, pour le coup, en termes de texte, il me parlait pas, mais vraiment pas du tout. Et plus il a décroché, un peu, enfin décroché, c'est un bien grand mot, parce qu'en vrai, il rappe sur pratiquement tous les sons, sauf un vers la fin, qui est le seul qui me gêne, en fait, parce que c'est plus un truc slamé, bizarre, et vu l'interprétation qu'il met, alors c'est pas du tout de sa faute, mais ça m'a fait penser à un horrible titre de Fauve. Tu sais, on me dit, ouais, indignez-vous, et tu sais, ça fait vachement... Ouais. Donc voilà, ça, c'est pas voulu de sa part, mais je trouve ça fait limite tâche en termes d'interprétation. Alors que sur tout le reste, vraiment, il tient son truc et tout. Et il y a un son. Attends, c'est lequel? Il y en a un, ça m'a fait penser. Ouais, c'est les premières notes de Petit Prince. Ça m'a fait penser que, en fait, pour garder le côté, connard du rap, c'est vrai que des fois tu dis putain, il y a certaines compos de Sofiane Pamart, tu leur ajouterais juste, tu vois, un petit kick et tout, et là pour le coup je pense ça prendrait, tu vois, une dimension un peu comme quand Amélie Poulain s'était sortie, il y avait une sorte de mini vague de trois, il y avait 7 Gecko, l'Escadrille et Cynique qui avaient chacun samplé un bout de la BO d'Amélie Poulain, et en général ça donnait des bons morceaux, c'était indéclarable, donc c'était que des trucs de mixtape, street CD. Mais lui, tu vois, je le verrais bien sur un truc entier comme ça. Par contre, le problème, c'est que c'est vraiment pas déclarable du tout.
Ouais, ouais.
Mais tu vois, sur vraiment des gros classiques de piano, mais samplé par un port, tu vois, vraiment par un bourrin et tout. Et non, après, franchement, j'essaie de voir si j'ai autre chose, mais...
Attendant que tu... Vas-y, est-ce qu'on peut faire un petit point cover
Ah oui.
Je suis pas fan.
Ah, t'aimes pas
Je suis pas trop dans ce graphisme-là, mais c'est joli.
Mais c'est pas... Ça résume toute ta pensée sur cet album globalement. T'es pas fan, mais c'est joli.
C'est bien fait, mais c'est pas mon truc.
Et alors je sais que... Ah mais non, d'ailleurs c'était Petit Prince et j'ai inversé avec Le Monde est à mes pieds. Mais pareil, genre lui sur un sample de Joey Zaichi serait parfait, tu vois, pour moi.
Ouais.
Et bon, il y a plein de trucs comme ça. Après, ouais, ça pourrait... Je sais pas, tu vois, ça pourrait être la BO d'un film... triste mais avec une fin heureuse, parce que même si c'est clairement enfin un mec qui t'ouvre son crâne et tout, et tu vois qu'il y a beaucoup de tourments, de douleurs, de trucs, mais la fin elle est quand même un peu plus ouverte, et puis en plus en plein milieu t'as un peu la déclaration d'amour pour son fils, donc t'as quand même des petites fenêtres, mais
ça
pourrait
être dans un film de Christophe Honoré.
Ouais, mais vu qu'il est belge, moi je dirais Lucas Bellevaux. Parce qu'en plus, il est belge et il fait pas de vannes non plus, tu vois.
Est-ce qu'on peut avoir un exemple de film triste qui finit bien?
Je sais pas, Wes Anderson. Genre, La Famille Tenenbaum.
Tu trouves ça triste?
Bah, il y a quand même, ouais, la famille elle est dysfonctionnelle.
On peut dire doux à mer.
Ouais,
voilà.
Ou sinon, au pire, t'as La Vie Aquatique. La vie aquatique, triste, ça finit bien, tu vois. Ouais. Mais il y a plus de vannes que Jessie là, quoi.
Que Jessie là, c'est clair. Ok, on classe?
On classe.
Classons.
Let's go! Alors, voilà, on nous a déjà ajouté le Kyoto Tokyo, merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on met Scylla, Pleine Lune? Ah ouais, là, ça se regarde. Ah bah là, ça fait pas les malins. Moi, je le mets derrière Fast and Furious 7.
Ah putain, j'allais dire ça.
Derrière Corleone.
Ouais.
Et devant dans la lumière.
C'est mort.
Non, mais j'ai le droit d'avoir un point de vue quand même.
Oui.
La dictature, c'est terrible. Donc je le mets en 23e position. 23 comme
Jordan.
Ma seule ref.
Non, je te rejoins.
Tu fais pareil?
Ouais, la crime juste au-dessus. Hein. Mais.
Non, mais je parle de projet. On juge, comme l'a très bien dit Anifa, nous jugeons des pièces. Mais on n'a pas le droit. Si. On coupera en montage.
La régie, s'il vous plaît.
La régie, s'il vous plaît. Pas de gagne à la régie. Mais on juge des pièces et non pas des rappeurs. Donc, s'il a écrit mieux, tout ce qu'on veut. Mais moi, je trouve que l'œuvre Corleone.
On a compris, c'est bon.
Mais non, l'œuvre Corleone. Non, mais je critique.
Mais je critique pas. J'ai le droit de dire que ça me plaît pas. Et de toute façon, on va faire une moyenne Maisy.
Bah, mais donne ton truc, toi aussi.
Et bah, moi, c'est mort. Je le mets pas. Je le mets pas en dessous de la crime Corleone, en fait.
Et bah, tu le mets
c'est
où?
C'est quoi ce monde dans lequel on vit? Je le mets. Et bah, je le mets juste au-dessus, du coup.
Ah, voilà.
Ah, ouais, donc
ça.
C'est juste la crime qui te pose un problème, quoi.
23
ouais, 22, mais grave. Ouais. La crime me pose grave problème.
Ok, d'accord.
Non, la
crime. Mais oui, c'est genre le côté intello et le côté un peu.
Déjà que
c'est
aussi dans la lumière et en dessous de Corleone, déjà, c'est compliqué.
Mais dans la lumière, et on a dit ce qu'on pensait de cet album-là. C'est pas un album.
Tu vas le mettre où, Yérim, toi?
T'as dit, c'est bon?
Non, j'ai pas dit.
Ah, mais tu vas t'adapter à ce qu'il va dire.
T'as dit 22.
J'ai noté 22, mais je peux l'enlever.
Oui, non, j'ai dit 22, ça va. Anifa a dit 22.
C'est 23, 22.
On coupera montage.
Je pense que je le mets en 20. Parce qu'il écrit quand même mieux que plein de gens qui sont en dessous. Dans mon classement à moi.
Donc tu le mets devant Youssoupha à chaque frère?
Ouais, je le mets derrière Bissouna Bissou. C'est-à-dire, c'est,
tu vois, il est entouré de Bissouna Bissou et Youssoupha.
Bah, c'est-à-dire, c'est un film d'auteur, tu vois, mais c'est vrai que Black Flick Max est quand même plus rigolo. Donc je garde Bissouna Bissou.
Il est chiant.
Black Flick Max réalisé par?
C'est le mec qui a fait La Vérité si
Thomas
je m'en
rends
après.
Non, c'est pas, c'est Thomas Gilou.
C'est, pour moi, c'est le même gars qui a fait La Vérité si je m'en rends.
Moi aussi. Ouais, donc Thomas Gilou.
J'ai pas le nom.
Gilou, alors, ouais.
Bah, l'épisode des Gilles.
C'est Thomas Gilles.
Ouais. Oh,
allez, je me casse.
Dis-nous le classement avant de partir.
Alors attends, donc c'est 23, 22, moins 20.
Mais il y a deux 22.
Il manque 100.
Non, elle a dit 22.
Ah, 22.
Non, elle a dit 23, pardon. Il y a deux 23, un 22 ouais. Et un 20.
Oh, ok, c'est, il y a deux 23, un 22, ouais. D'accord.
Ah, oh, il est chiant. 88. Il est chiant, Yérim.
Ça fait 22.
Ah bah 22. Voilà. Ah non, pour le moment, lève mon petit... Okay.
Oh non, il passe devant la crime, je suis très déçu moi aussi. Hein.
Sympa. Donc toi, t'as gagné en fait. Bravo.
Toujours.
Nifa.
Ça, c'est le premier de la classe qu'on gagnait.
Donc, si la pleine lune rentre en 22e position entre Grand Cru et Corleone. Voilà.
Vraiment, les deux à côté, c'est très drôle quand même.
C'est incroyable. C'est incroyable. Mais j'ai l'impression que dès le début, on a regardé Corleone.
Ouais.
Donc, il était soit au-dessus, soit en dessous, mais il était lié à ce projet. Il était lié à ce projet. Est-ce qu'on peut passer au Gilles suivant, s'il vous plaît? Ah! Un des Gilles les plus, peut-être le Gilles le plus connu, finalement.
Ouais,
l'histoire du rap. C'est Gilles Duart. Stomy Bugsy, qui donc est le premier rappeur dont nous reparlons. Dans l'émission, après le premier album, avec l'album de 2007, Rime Passionnelle, l'album anti-sarkoziste, l'album où vraiment on est à ce moment-là où genre le rap français c'est parle de Sarkozy Benny. Tout le temps, avec une cover qui est un peu une sorte de plagiat, une cover d'Ice-T de cette époque-là qu'il avait fait avec sa meuf de l'époque. Moi... J'aime beaucoup cet album.
Non, si. Est-ce que tu l'as réécouté?
Oh oui.
Okay,
c'est faux. J'ai réécouté quelques morceaux, mais je veux pas endommager l'amour que j'ai pour cet album, qui n'est pas un album incroyable, mais que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, pour moi, c'est le moment où Stomy rappe le mieux de sa carrière.
Sandra. Parce que
non mais Sandra, Sandra du coup non, non. Si,
en fait
non moi j'ai noté un enchaînement de deux titres qui est très très douloureux.
Non mais attention, vas-y. J'ai dit qu'il rappe le plus de sa carrière et notamment parce que beaucoup de gens ont écrit pour lui sur cet album là. On avait parlé je crois lors du premier épisode, mais il y a Lino, Driver,
Escobar, Moms. Et tu sens qu'il y a un peu papillon sur de la réal.
Ouais.
Parce que, enfin, tu vois, déjà, le son où il est en feat, où c'est totalement bonne tug, c'est le délire de papillon, tu vois. Donc, ouais, il s'était entouré de ouf. Ouais.
Juste, t'as cité Moms.
Ouais, Moms.
Rappeur extraordinaire, notamment pas mal influencé par un autre Gilles dont on va parler. Après.
Ouais.
Oh oui. Tout est lié aujourd'hui. mais qui était signé sur All Made, donc Driver, Jean-Pierre Sec, qui était vraiment. Tu te souviens de ce rappeur-là ou pas, Nifa?
Non.
Qui était vraiment très très chaud, mais qui a jamais. Enfin, qui était plus un freestyler, improvisateur, vraiment, mais brillant.
Je crois qu'il avait sorti un street CD, et après, il était plus sur le label, et après, il était un peu en indé. Mais ouais, il a eu des très bonnes apparitions.
Et moi, j'aime bien ce hardcore. Que même si tu vois je pensais beaucoup c'est vrai à l'époque dans l'écriture à Booba, enfin tu vois on sentait qu'il s'était peut-être un peu influencé du rap de l'époque. Pour moi c'est un peu le dernier je sais pas, le dernier tour de Stomy avant que ça devienne vraiment plus intéressant du tout dans le rap. Et là, je le trouve encore cool. Et je trouve que tout le délire, justement, super énervé, parce que, en fait, autant Ministère Amer, c'était super énervé. Et après, ce album-là, il avait mis quand même beaucoup d'eau dans son vin. Avait vachement joué la carte gangster d'amour, etc. Et plus du tout, rebelle ou irrévérencieux. Et là, en fait, c'est limite son album le plus vénère depuis 95-200. Et du coup, ça m'avait vraiment fait plaisir à cette époque-là. Après, il y a des prods qui vieillissent mal, etc. Il y a des choses, au contraire, qui voulaient être très très proches, je pense, du rap américain de l'époque, des prods de Scott Storch, enfin, des choses qui voulaient ressembler à ça, en tout cas. Donc, c'est vrai que quand tu réécoutes ça aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pareil, le morceau Il pleut avec Papillon, tu sais, tu sentais que ça voulait faire un peu les morceaux, genre, Until the End of Time de Tupac, un peu faussement émo. Donc, bien sûr, tout ça, je sais que c'est pas toujours très réussi, mais ayant une affection pour Stomy, et en plus vraiment, je trouve qu'il y a, en fait, les meilleures rimes de Stomy, elles sont sur cet album-là. Et c'est vrai, elles sont peut-être pas écrites par lui, mais elles sont là. Du coup, j'aime bien cet album. Voilà, je l'aime bien.
J'aime bien.
Et il s'inscrit aussi, c'est aussi pour ça que j'aime bien, je pense, dans une tradition limite de l'époque, de on tire à fond sur Sarko, on commence à tirer un peu sur Marine, mais c'est vraiment Sarko, et c'était marrant, parce qu'en fait, c'était un peu la cible que tout le monde avait dans le rap français, et on se marrait bien, quoi.
Ouais.
Voilà.
Tu disais 2006 ou 2007?
Pour moi, c'est 2007.
Oui, 2007.
Donc vraiment, élection de Sarkozy, ouais. Tu vois, on est en plein dedans. Stomy était énervé. Et en plus, il y avait aussi le truc que Gynéco avait rejoint Sarkozy. Donc, il y avait aussi ce truc-là par rapport à son gars. Même Driver, Van et Gynéco sur le morceau Est-ce que tu la sens d'ALPHA. Est-ce que j'encule
C'est Driver, Charry quelqu'un.
Driver, il dire ça.
C'est arrivé deux fois pour Gynéco et Black Ken.
Black Ken, c'est pas en morceau.
Chacun en concurrence ce qu'il en voudra.
Voilà, donc, moi, je. J'ai plutôt envie de dire du bien de ce truc-là parce que c'était un bon divertissement pour moi à l'époque. C'était tu vois, si Corleone c'est Fast and Furious, ça c'est Vertical Limit.
Voilà. T'es trop gentil encore.
Vertical Limit, ça rend pas bien.
J'aime bien. Mais voilà, il faut que tu captes.
Ouais,
je suis pas bien, mais il aime bien.
Ouais, on a le droit d'avoir
mais bien sûr, tu aimes les nanars et tu as le droit. De toute façon, t'aimes Fast and Furious à partir du 5. Donc, à partir du moment où tu as fait cette déclaration dans l'épisode précédent, je vais tout comprendre de ton amour de ce genre de projet. Stomy Bugsy, rime passionnel. Moi, je vais pas beaucoup parler parce que je vais redire ce que j'ai dit, sur le premier épisode, du coup. Il y a quelqu'un qui avait laissé un commentaire où je crois que c'est sur notre joli forum en disant, c'est marrant de se rendre compte que, après l'épisode qu'on a fait sur pour quelques balles, pardon.
Quelques balles de plus pour
qu'il te faut. Qui disait, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui captent pas le délire de Stomy, même des années après.
Mais c'est pas qu'on capte pas le délire.
Non, mais c'est ça.
Il y a pas de délire à capter.
Si, il y a un délire. Il y a un délire. Je pense qu'il y a un délire. Et j'ai pas capté. Et voilà. C'est ça. On l'a pas capté. Et en fait, ce truc, Lascar, déstructuré, pas rimé, pas dans les temps, je peux pas être diverti dans ce truc un peu euphorique même, tu vois. Il y a une prod, allez on y va, tu vois, et on sait pas trop. Moi je retiens des lines, et surtout cette période là parce que je m'en souviens, là je me souviens, c'est la première fois que je me souviens d'un album de Stomy qui sort et que je suis assez âgé pour l'entendre, parce que c'est en 2007, du coup c'est bon, genre je suis consciente, mais il y a trop de trucs à côté qui, et puis en plus cette comparaison qu'on peut faire de lui avec d'autres rappeurs, elle a même pas besoin d'aller écouter d'autres albums, elle se fait au sein même de son album en fait. Mm-hmm. Et du coup c'est fou de sortir des projets et d'être aussi iconique au sein d'un collectif auquel il appartient, enfin au sein d'une nébuleuse d'artistes auquel il appartient, et même je veux dire de manière générationnelle d'être aussi iconique, mais à la fois aussi de se faire autant outshiner dans ses propres albums en fait. C'est-à-dire que je suis intéressée par...
Après, il a eu une carrière aussi au-delà de la musique.
C'est pour ça qu'il est iconique, parce que voilà, moi, le Stomy Bugsy que moi, genre, dans les souvenirs que j'ai, les flashs que j'ai, c'est...
Au cinéma, quoi.
Tu vois, même là où on peut être aussi critique, mais... Limite, je préfère ça.
Ah non, moi je le préfère en acteur. Hein.
Parce que si c'est des.
Sur ça, tu dis code entre guillemets dont tu parles. C'est aussi le rap qui lui a donné. Je veux dire, ouais. Même si certains n'ont pas capté le délire ici. Il y a quand même tout le enfin ministère amer, tu vois, c'est iconique, sacrifice de poulet, tu vois,
je veux dire. Mais du coup quand moi je vais là-dessus, c'est pas lui qui enfin tu vois quand moi mes grands ils me disent faut écouter sacrifice de poulet, c'est pas Stomy qui vient, je me dis pas ah ouais lui trop fort. Mmh. C'est ça en fait, c'est comment t'as pu être aussi symbolique d'une génération, enfin un symbole aussi important d'une génération, mais qu'artistiquement aujourd'hui en 2020 c'est tout ton entourage qui m'intéresse et moins toi. Mais
genre, là, soit hardcore, ça te fait pas marrer?
Ni chaud, ni froid.
Non. Ah ouais, même le remix.
Non, non, attends. Soit hardcore, du coup, il a viré les meufs qui fait le refrain, mais il fait lui-même la meuf qui fait le refrain. Il imite une meuf, c'est lui.
C'est ça, pour ça que je dis que c'est un délire. Ouais, mais du coup, moi, c'est pas mon délire, en fait. C'est un délire, Stomy Bugsy, vraiment, tu vois. Genre, la prononciation, le faux accent gangster, tout, c'est un délire. Et vraiment, ce commentaire m'a permis de cette personne, du coup, dans le forum ou sur YouTube, je ne sais plus, m'a permis vraiment de pouvoir axer ce dont j'allais parler aujourd'hui, c'est-à-dire que, ouais, c'est complètement un délire qui, pour moi, non, caduque. Genre, je peux pas, en fait. Mais par contre, je peux comprendre, enfin, si c'est un personnage qui, au sein d'un projet, d'un album rappé, me convient pas. Ouais, par contre, dans une série, dans un film, bien sûr. Genre, je suis casteuse, je me dis, ouais, il y a un truc. Mais sur le rap, moins.
Ouais, mais je te rejoins là-dessus, pour ma part. Je t'écoute.
Oui, oui, non, tu peux y aller.
Sur le côté personnage et attitude, etc. Moi aussi, c'est un truc sur le... C'est ce que je préfère de lui, en fait. Et ce que tu disais sur son statut d'icône et tout. Dans ses rôles au cinéma, moi, ma génération, je pense qu'on l'a aussi beaucoup plus connu, ouais, comme ça. Clairement. On avait des souvenirs d'enfants du ministère Hammer, mais on le connaissait en tant que Stomy Bugsy.
Gomez et Tavares.
Gomez et Tavares.
Et moi, je m'appelle Sandra Gomez, donc toute ma vie, on m'a associée à ce film aussi. Tu
vois. C'est pour ça que tu m'aimes pas.
C'est peut-être pour ça. Hein, peut-être que c'est...
Il y a un truc.
Non, pour le coup, je vais pas en rajouter. Moi, je suis moins juste dans le délire. On va juste dire ça. C'est une question de goût aussi. Je suis moins à propos de ce délire-là. Je trouve, comme on a dit dans le premier épisode, qu'il ira. Enfin, il ira pas bien pour moi. Donc, il y a des morceaux. Je suis Al et de Celsar au César. César. Je trouve ça très dur à écouter les deux d'affilée. Par contre, tous ses invités sur son album, j'aime beaucoup. Il y a Arsenic, Negmaron, Passy, MC Jean Gabin.
Ahmed Day.
Ouais, et c'est des morceaux que je trouve cool, du coup, parce que bah, c'est dommage, mais c'est pas lui. Enfin, ça, c'est dur de dire ça comme ça, mais. Mais non, j'accroche pas avec Stomy. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'outro, en fait. Bizarrement, c'est un texte qui récite en référence aux événements politiques qui se passent en ce moment, etc. Donc c'est quelque chose de très sérieux et c'est même pas du rap forcément, juste il récite un texte, mais je trouvais ça très bien fait. Je trouve ça très émouvant.
Ah, mais oui, en fait, c'est l'extrait de son passage chez Ardisson, ouais. On en parle. Okay. C'est ça le truc. Ouais.
Et voilà. Pas grand chose.
Et le morceau s'appelle, c'est sur Personne n'en parle.
Ouais, c'est ça.
Je pense à l'émission d'Ardisson, tout le monde en parle. Mm-hmm. Et ben, on réfléchissait.
Mais je trouvais ça, oui, mais pour le coup, ça va, je trouve ça plutôt bien fait, tu vois.
Mais moi, je l'aimais, de toute façon, moi, j'aimais bien Stomy même, dans les émissions, etc., parce que je trouvais toujours charismatique.
Mais oui,
donc,
mais moi, je me suis buté, justement, mon enfance, c'est toutes les émissions de Ardisson, de Ruquier, etc., tu vois. Et je le voyais, mais comme NTM, hein, c'est des personnages de la télé.
Avant d'être des rappeurs.
Ouais. Avant d'être des rappeurs
aussi. Je me souviens une fois, Ardisson me dit, c'est quoi ta devise dans la vie? Et il regarde comme ça, c'est très sérieusement, la caméra est fait. Baise la vie avant qu'elle te baise.
Et en fait, je pense à
ça.
À la télé,
je pense à la crime aussi. Et je repense à Vin Diesel. Et je me dis que, du coup, vous avez raison. C'est-à-dire que, tu sais, ce qu'on disait sur la crime et le côté personnage, si tu le captes pas, tu le captes pas. Tu vois, si ça te rebute, ça te rebute. Et là, j'ai pas compris que c'était pas à ce niveau-là. Mais en fait, tu captes pas, c'est vrai que quand on n'est pas sur des rap, c'est pas, tu vois, Scylla, t'aimes pas son délire, mais tu peux pas dire qu'il rappe mal, en fait. Tu peux pas dire qu'il écrit mal,
ouais,
etc.
Carrément.
Stomy, effectivement, si tu captes pas le délire. Ouais, ouais. Donc, voilà, tu as. Et je capte, tu vois, je vois, parce qu'il y a des lacunes. Mm-mm. Et voilà. Mais bon, en tout cas, baiser la vie avant qu'elle vous baise, ça me semble important.
Ça, c'est important, ça, c'est important.
Alors moi, pour le coup, je suis plus, alors pour moi, c'est pas Vertical Limit, c'est Expandables, en fait.
J'ai dit ça parce que j'avais pas d'idée. Hein.
D'accord.
C'est le premier qui m'est
venu. Parce que, en fait, je pense, Expandables, si tu le vois et que t'as jamais vu ou kiffé un truc de Stallone, à l'ancienne, bah tu vas dire qu'est-ce
exactement
que c'est que ce truc.
Tout à fait.
En plus, t'as plein de références qui vont passer, qui vont tirer à côté, parce que même de reprendre des répliques cultes. Et lui, en fait, il a quand même il a une ligne directrice sur cet album-là qui est aussi de rappeler, c'était quoi le ministère Hammer et tout. Et c'est En fait, son ego trip,
rap de cité,
c'est ça, tu vois, il a vraiment, il a même le, il a même le, je crois, la pire phrase de revanche du monde qui est, c'est amer, pas hammer. Ouais, parce que c'est vrai que c'était souvent mal prononcé à l'époque et tout. Et il a plein de trucs comme ça, il reprend vite fait, mais elle, qu'est-ce qu'elle veut, qui était sur la première version de Brigitte, femme de flic. Et en fait, il en a vraiment plein. Et en fait, sa forme d'ego trip, c'est ça. C'est de dire, en gros, j'étais là avant vous. Et c'est moi qui ai fait en premier, enfin j'ai fait partie des mecs qui ont fait en premier du rap de Tess, etc., des trucs super irrévérencieux. Alors là, par contre, où tu vois que je sais pas si c'est les consignes qu'il a pu donner à ses ghostwriters ou si c'est juste des fois, parce que il a bien précisé que c'était pas tout l'album qui était écrit par d'autres, c'était une partie et tout. D'ailleurs, alors. Bon, ça va dégoûter pas mal de gens, mais il avait quand même aussi précisé que de base, il avait demandé à Lino de lui écrire un album entier et qu'en fait, il en a juste eu marre de le relancer, que du coup, ça s'est retrouvé sur quelques morceaux, mais pas plus. Mais ouais, donc t'aurais pu avoir effectivement théoriquement.
C'est un de ceux qui a le plus écrit pour d'autres gens, Lino, peut-être.
Hein. Lino, ouais.
Il y avait Madame Key de Diams aussi, ouais, tu vois. Enfin, c'est un mec qui l'a souvent fait.
Et en réalité, je crois Driver pas mal, mais Driver pour le coup en vrai ghostwriter, c'est-à-dire que c'était pas revendiqué, c'était pas un truc. Mais pour le coup, le truc sur Garth Sarcelle, c'est complètement Driver de A jusqu'à Z. D'ailleurs, il est lui-même au refrain.
Ouais, il est au refrain. Quel plaisir.
Mais en gros, ouais, tu sens par contre que des fois, il se force à être hardcore pour être hardcore, et il va quand même très souvent tomber sur des phases de cul et au bout de la dixième je suis ah ouais c'est quand même beaucoup ça, genre je sais pas, il en a vraiment beaucoup, hein. Il y a un truc où il dit ouais t'as tellement branlé des gens qu'à 20 ans t'as de l'arthrite et il a vraiment, c'est on dirait des vannes ta mère, tu vois, de cours d'école rebosser et tout pour que ça rentre dans une mesure de rap, mais il en a vraiment énormément. Et je sais qu'il y avait un truc qu'il avait repris à... Attends, il y a un truc méga franchouillard qu'il a repris à Jean-Yann, qui lui-même l'avait repris à des proches. Un truc sur... un moment, il se retrouve à dire les disques d'or, c'est comme les hémorroïdes, n'importe quel trou de balle pour en avoir. Et en fait, c'était Jean-Yann qui disait les Césars, c'est comme les hémorroïdes. Et de base, je crois que c'était des proches qui disaient les avis, c'est comme les trous de balle. Oui. On en a un. Et donc, il a vraiment ce côté je pioche, tu vois, sans complexe aucun. Après, par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que pour moi, il rappe quand même beaucoup mieux sur celui-là que sur les deux, d'ailleurs, soit la réédition ou le simple duquel il te vaut. Parce que je pense malgré tout de se faire aider pour l'écriture, même si c'est pas des gens qui lui ont fait ses top lines ou ses flows, etc. Ça oblige à une certaine rigueur, parce que malgré tout, c'est des gens pour le coup qui écrivent en mesure, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus cadré. Les instrus, je les aime bien, moi. C'était pas un truc que, enfin, je trouvais pas à l'époque que ça faisait tâche. Et à la réécoute, ça m'a pas choqué. Et surtout, j'avais oublié, mais il a quand même ramené Jérôme Priester sur son truc de funk. Et Jérôme Priester, c'est un gros nom de la funk, en fait. Donc ça, c'était plutôt classe. Je me rappelais pas, il y avait aussi Gabin en feat.
Ouais.
Et c'est toujours des grands moments.
Grave.
Donc voilà, il y a aussi...
Moi j'aime bien parce que Gabin il parle en fait.
Ah oui, Gabin ça clairement c'est mais du coup c'est la combinaison des deux est assez marrante. Et puis même il a effectivement des trucs de gangster de film. Il a, tu sais, quand il dit tu peux me braquer sur la tempe mais jamais dans la bouche. C'est vraiment le truc de fierté nulle, ce que tu dis dans les deux cas. C'est pas, enfin, tu vois. Il en a vraiment plein, tu vois, des comme ça. Et après, ouais, pour parler de ce hardcore remix, pour le coup, mais c'est, enfin, encore une fois, c'est comme, quand Stallone, il va ramener John Statham, tu vois. C'est-à-dire que tu fais, le passage de flambeau, il est évident. T'as 5-20 qui est magistral sur son truc. Quand tu fais, la vérité, c'est que la bicrave me manque, ça fait bizarre de rentrer sans cagoule dans une banque. Tout est génial. Évidemment, il y a Lino, je crois que c'est Despo qui ouvre le morceau.
Despo, Tequila, James Capage.
Ouais.
Mais ouais, super ce morceau.
Donc, en fait, moi, c'est plus sur l'espèce de pont et le truc un peu symbolique et le et après ouais c'est parce que j'aime le personnage.
Il faisait donc, un peu ça à l'époque, tu sais, un peu en mode je reviens rapper un peu dur. Il y avait aussi la compilation Self Defense de Driver,
oui,
oui,
oui.
Où il y avait
un Seth Gecko,
exactement. Ouais. Et enfin, à un moment je me suis dit ah peut-être qu'il, tu vois, il y avait un truc un peu de retour vénère,
c'est ça.
Mais qui a pas duré au-delà de cet album finalement.
Ouais. Non, puis après il a vite fait une autocritique parce qu'il dit le gangster d'amour est mort avec la reprise d'Iglesias, qui est un truc qu'il a fait, ouais, vraiment, ouais, tu vois. Mais non, après, puis même il dit je suis au rap ce que les Sex Pistols sont au punk. Ouais. Tu sais, il a vraiment ce truc, ouais, de souvenez-vous tous qui je suis
et
tout.
Il le dit en beat et tout, enfin, c'est horrible.
Non, moi franchement j'aime bien. Et en plus, comme il le dit lui-même, mieux vaut une bonne branlette qu'une toche qui flingue.
Ouais, ça, il a pas de là-dessus, on est tous d'accord avec lui.
Ah, on est d'accord?
Pas de problème.
Bon, on classe.
On classe.
On classe là-dessus. Stony Bugsy, rime passionnelle. Où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on peut avoir le classement, s'il vous plaît, si vous pouvez encore nous le montrer? Merci beaucoup. Bientôt, on pourra plus faire ça parce que c'est trop long, c'est trop grand. Où est-ce qu'on met Stomy? On va regarder haut, hein, on va regarder le top 10, je pense, côté Sandra, côté Nifa. Non, où est-ce qu'on met Stomy? Rime passionnelle.
Moi, je crois que j'ai préféré le calibre qu'il te faut, hein.
Bah oui, ouais. Ah bah je te jure.
Ah ben
au final, ouais, hein.
Ah ouais, parce qu'il y a le charme de l'ancien, tu
et
vois.
Et truc un peu plus
bah moi ce qui m'embête c'est que
un peu plus West Coast et tout,
ouais.
Donc
ouais. Moi j'ai beaucoup plus écouté les calibres qu'il te faut.
Ah non, mais
et c'est... les prods sont bien meilleurs, mais en termes de
rap. Non,
mais
je crois que je préfère l'Absolaps en fait. Donc il va être juste devant Big Flo et Oli.
Tu peux, mais tu le mets où tu veux même.
Non,
derrière.
Mais je
non là franchement non, je peux même pas le mettre devant Big Flo en fait.
Je peux quoi
pas... Ouais. Un rime passionnel, là? Je peux pas le mettre devant Big Flo.
Putain.
Qu'est-ce que j'entends?
Quoi?
moi. Ah, le cinéma français.
Oh là là.
Ah, Thomas Gilou. Hein. moi.
Du coup, ce sera 27 pour moi.
Bon, moi, vous m'emmerdez. je le mets en 24e devant Zoxy.
Moi, je le mets 29e.
Attends, j'ai perdu la calculatrice.
Je le mets 24.
Ok, donc 24 et
27.
27.
Plus 29.
Et 29. alors.
Allez, remonte-nous tout ça. Mets 13, juste pour le panache. Qui gagne des places, quoi. Stomy.
ouais, bah, pour moi, c'est.
Je rappelle d'ailleurs à tout le monde que le classement est visible sur tierlist.fr. Voilà, pendant ce petit moment de blanc, n'hésitez pas à aller, aller le regarder. Vous pouvez le regarder en même temps que vous nous écoutez.
Ouais.
Moi, je pense que je vais... Attends. Ah oui, non, d'accord, ok. Je vais le mettre en 20.
Oh là 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 là, quelle belle entrée. Enfin non, d'ailleurs,
non,
c'est pas
non,
sa place.
Non.
Oh, je me suis emballé.
Mais même 20, c'est pas une belle entrée.
Franchement, je m'y attendais pas, en fait. Pour ça, je...
Et donc, ça fait 25 piles.
25
ça fait 100
piles.
Au total.
Allez, il se met à côté de son...
Alors d'ailleurs, on a un petit
ah, bah, à côté
souci.
De son bébé, du coup.
Parce qu'on a deux 24, excusez-moi, dans le classement qui nous est affiché. Pardon pour
oui,
les auditeurs.
Exact.
On a Zoxy en 24, Que de la haine en 24 aussi. 25, 26, 27, 28. Donc en fait, il faut... C'est pas en... Vous voyez ce que je veux dire?
Big Flo, c'est 29, en fait.
Ouais, exactement.
Super.
Voilà, bon bref, c'était juste...
Merci la régie.
Donc il rentre en 25, du coup, devant Que de la... Voilà, devant
non.
Que de la N3.
Non, pardon, le calibre qu'il te faut, en fait.
Mais non, parce que en vrai, c'est Que de la N qui est en 25. Et le calibre qu'il te faut qui est en 26.
Mais c'est nos chiffres qui sont pas bons.
Ah, mais
ah
oui,
non.
Ils sont, faut refaire. En fait, ouais, faut refaire.
Donc, il y a 28 pour moi.
Parce qu'aucun chiffre n'est bon, en fait.
Voilà.
Donc, 28, ouais.
Excusez-nous.
Faut
on rajouter, montage, on
rajoute un à ce que t'as mis tout à l'heure, du coup.
Bah, 30.
Oui.
Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit 12, non?
Mal, ça y est.
Non, moi
est.
25, du coup.
Ouais, voilà.
25.
Toi, 21.
Non, bah, ouais, mais je vais dire 19.
Donc non,
ça fait 102 divisé par 4, ça fait 25,5.
25.
Non,
donc.
Mais c'est stratégie, putain de merde.
Il
a raison, le gars, en fait.
Haine.
On arrête la calculette, on se met d'accord.
Non,
il rentre devant Que de la N3.
Bah, c'est normal. C'est
bon,
un
allez.
Plus construit et plus solide. Donc, en 20, entre Zoxy et Que de la N3.
Ça va pas.
Et si on peut juste corriger les chiffres, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et passons au Gilles suivant.
Non, le vrai meilleur des Gilles, là, maintenant.
Ah bah merci.
Mais c'est un petit cadeau, allez.
Avant de pas... Donc Gilles, ainsi soit-il, est-ce qu'on peut parler le point cover, peut-être, Sandra ?
Magnifique cover, j'adore. Elle c'est belle, l'esthétique qui revient à fond, là, en 2020, et c'est très beau, et c'est très fidèle à la musique qu'on va retrouver à l'intérieur dans l'esthétique. Et ça, j'aime beaucoup.
Parfait.
C'est
donc
une belle
c'est...
image des années 90.
Ouais, 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 même si ça, donc ça sort en 2000, milieu des années 2000, mais c'est vrai
mais
qu'il
y a beaucoup de sons de...
Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est le seul projet solo de Hill à ce jour.
Officiel, ouais.
En fait. Ouais. Et donc c'est une...
C'est une compilation.
Mixtape compilation, voilà,
best
exactement.
Of.
Ouais, best of.
Et en même temps, il y avait des inédits.
Il y avait des inédits.
Exactement.
Ouais.
Il y avait donc, à la fois des inédits, à la fois des phases B, des freestyles, donc c'est... mais finalement, c'est pas mal de mecs le faisaient à l'époque, puisque, excusez-moi de forcer, mais bon, voilà, hein, j'ai même pas besoin de dire son nom, mais il le faisait aussi. Donc bref, il y avait quand même pas mal de trucs comme ça, finalement, à ce moment-là, et entre le street CD, la mixtape, etc. Voilà, je vais peut-être pas commencer encore sur Hill, mais je pourrais, hein, mais Nifa.
Vas-y. Hill.
Qu'est-ce que t'as à dire de Hill?
Bah, moi, c'est mon Gilles préféré aujourd'hui.
C'est le plus grand Gilles de tous les temps.
C'est le plus grand Gilles de tous les temps. Parce que de manière totalement affective, comme quand Mehdi parle de Stomy Bugsy, mais pour le coup là j'ai des vrais arguments.
Attends,
parce
qu'on est vraiment.
Non, c'est bon, t'es associé à ça, hein, c'est bon.
Parce que là pour le coup, on est sur, qu'est-ce que je pourrais dire sur Hill?
C'est Bruce
compliqué.
Willis.
Non.
Oh non, bah, c'est Al Pacino là, c'est Jack
Nicholson.
Non, mais Nicholson,
je veux dire, si Stomy c'est Stallone, bah lui c'est Bruce Willis, c'est pas honteux. Mais le Bruce Willis de son âge d'or, pas le. Non,
mais moi
Willis
j'adore Bruce Willis aussi, bien sûr.
Moi aussi.
Oui, mais je veux dire maintenant c'est un peu compliqué.
C'est très compliqué.
mais
bon.
Mais oui, c'est moi c'est un peu l'école là, hein. C'est vraiment à rebours les projets avec lesquels j'ai vraiment commencé à devenir une connasse du rap, dans le sens les rimes, les trucs, les...
Pour moi t'as toujours été une connasse.
Non pas du tout, non, parce que justement j'écoutais
non mais dans le cœur.
Oui, ça oui, évidemment, mais ça oui, je suis serpentard, je suis présenté comme tel, je suis une connasse, mais je veux dire du rap, c'est ça que je voulais dire, Yérim. Du rap en commençant par Hill et celui dont on va arrêter de citer le nom évidemment, mais c'est des formats qui me plaisaient bien parce que j'avais compris en retard, parce que c'est pas du tout quand ça sort, enfin quand ça sort, je suis pas encore apte à comprendre, mais je veux dire bien après j'écoute Ainsi soit-il pour comprendre ce que j'écoute maintenant et ce que j'aime dans le rap. Et en fait, j'aime bien le fait que ce soit des chutes, des inédits, de la phase B, etc. Parce que l'objet pour moi de ce projet, de cet artiste qui appartient à un groupe, c'était d'avoir un focus sur son expertise, en fait. C'est ce qu'il sait faire de mieux, c'est ce qui a façonné plein de rimeurs qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, du coup, écouter ce projet, c'est aller comprendre des choses plus d'un point de vue écriture que musical, en fait. C'est pas là, on n'est pas en train de vous dire à l'écouter ainsi soit-il parce que, ouais, les prods et tout. Non, c'est le professeur. Donc, du coup, on va apprendre comment se placer, comment se déconstruire, comment se déplacer sur un beat, comment aérer, etc. Donc, grand manuel scolaire, ainsi soit-il. C'est tout ce que... Bon, évidemment, j'adore encore et toujours Mo Money qui ne bouge pas et qui est... un bel exercice. On peut commencer par... Voilà, si vous lancez les coudes, vous pouvez commencer par ça.
D'ailleurs, Alpha One avait fait une reprise de Mo Money.
Ouais, et qui est comme un baptême du feu pour notre cher Alpha One d'aller sur ce morceau-là, comme il peut aller sur Homme de l'ombre pour parler de toute autre chose. Mais il y a des choses comme ça qui sont pas connues de entre guillemets de manière large ou mainstream, ou je sais pas comment dire ça, mais qui sont des petits des passages obliges, des steps un peu quand tu es dans cette veine de rappeur qui écrit et qui veut faire des rimes, tu as envie d'aller sur Mo Money pour voir ce que tu as dans le ventre. Donc voilà, je saurais quoi dire de plus à part
Je pense que c'est... Je t'ai
non, pas... non, non, tu peux y aller.
Je pense que c'est un projet, de par son format, qui est assez facile à écouter, parce que je trouve que le format compilation, un peu, est moins exigeant. T'as pas une... Tu peux avoir une écoute qui n'est pas extrêmement précise, mais tu vas entendre plein de choses. Et en fait, pour moi, ce projet-là, c'est vraiment, comme on disait sur la cover, c'est une très belle couverture. Photographie de ce rap-là, de ces années-là, et il est représentatif d'une époque, parce que Premièrement, il y a un casting de ouf, en fait, sur tout le projet. Il y a tous les meilleurs rappeurs de cette époque-là, en fait. Il y a beaucoup de sons, d'ailleurs, faut le dire. Il y a 42 morceaux, je crois, un truc comme ça.
C'est 2h35 de rap, là.
Ouais, donc c'est pour ça aussi que faut pas voir ça comme un truc énorme. On peut le lancer. Il y a des morceaux qui sont très courts aussi. Il y a des morceaux qui durent une minute. Il y a des freestyles de radio. Il y a plein de, c'est vraiment plein de choses. C'est un peu le bordel, entre guillemets, mais ça s'écoute très bien parce que voilà, il y a un casting de fou, il y a du Booba, il y a Laura Luciano, il y a L.I.M., Akash, Oxmo, vraiment bon, meilleur casting qui puisse être pour le rap de ces années-là. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté organique de la musique. Il y a l'utilisation de samples et puis vouloir vraiment montrer la musique dans sa première forme, même laisser les crépitements du vinyle sur certains morceaux, etc. C'est un côté un peu à l'ancienne que moi j'aime beaucoup.
C'est son esthétique de rap à lui, quoi. Ouais. Mais c'est ça à fond.
Mais j'aime beaucoup cette esthétique et je trouve que aujourd'hui en 2020 ça s'écoute très bien. Et tu parlais, vous parliez de Alpha One tout à l'heure et tout. Moi je me mets à la place de mecs qui ont découvert le rap avec un 995 par exemple. Je leur conseille d'écouter ce truc-là parce qu'ils vont comprendre plein de choses aussi.
C'est ça qu'il faut juste dire par rapport au côté professeur dont par les Nifa, et c'est vrai, mais ça s'écoute aussi assez bien, même si c'est long.
Ouais,
c'est-à-dire que c'est pas non plus juste un truc. Enfin, justement, tous ces rappeurs-là dont on parle souvent, dont on a parlé, les Nekfeu, Alpha, etc., ils ont aussi vachement mis les projecteurs sur ces rappeurs-là, ils les ont beaucoup cités. Et en fait, moi, je sais que j'ai déjà fait écouter Alpha ou Hill en story Instagram, et ils m'ont dit. Ah putain, Danny Danou, ils m'ont dit attends, ça ressemble à Alpha, ça ressemble à Nekfeu. Donc c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça a du sens aussi.
Ouais,
donc clairement. En fait, tu peux complètement te replonger là-dedans quand tu kiffes UMLA, tu vois.
Ouais, voilà. Donc la jeune génération, faut pas avoir peur de lancer ce projet. C'est un projet que j'adore. Vraiment, il y a beaucoup de sons que j'écoute souvent. Il y a un de mes sons préférés du projet. C'est La vie, c'est pas les rêves. Et j'ai été attirée par ce morceau en particulier parce que c'est un sample qui est utilisé dans plein de morceaux et c'est notamment par Jay-Z dans Dead President 2. Récemment, Meek Mill l'a utilisé aussi. Mais moi, la première référence que je veux avoir, c'est que c'est le même sample qui est utilisé dans Tomber pour elle.
La fouine, voilà, évidemment.
Vois, chacun ses rêves. Ah, ouais. Les miennes sont horribles, mais je les assume. J'ai pensé à la fouine en premier.
Bon,
et non, je trouve qu'il y a, beaucoup, beaucoup de morceaux hyper efficaces. Et même les freestyles un peu pourris, mal enregistrés, etc. Moi, je les trouve trop bons. Le Booba de cette époque-là, je l'aime trop. Et finalement, mes morceaux préférés du projet, c'est pas les inédits. C'est peut-être les trucs un peu plus anciens. Mais c'est un très, très bon projet pour moi.
Bah ouais, très, très bon projet aussi. C'est après.
Après, est-ce que tu te souviens de la première fois où on l'a rencontré?
Oui, oui, je
m'en rappelle. Ensemble, je te souviens. Après, je raconterai, vas-y.
Mais après, ouais, disons que lui, il est, comment dire, ce projet, on va appeler ça comme ça, c'est sûr que c'est pas un album, mais c'est exactement ce qu'aurait fait un mec qui veut te faire, je sais pas, une cassette audio best-of pour te faire comprendre, ouais, c'est quoi un bon rappeur.
Ou une playlist aujourd'hui, quoi. Tu vois, genre,
c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Pour dire, ouais, en fait, tu vois, un bon rappeur, c'est ça. En freestyle, ça donne ça. En impro, ça donne ça. En featuring, ça donne ça, etc. Et après, par contre, pour le côté best-of, parce qu'on peut le prendre comme un album best-of malgré tout. À ce moment-là, ouais, moi en fait, tu mets Hill Street Blues sur un tracklist et c'est bon, tu vois, c'est gagné. C'est vraiment. Et je crois qu'en plus, il y avait eu, je sais pas si c'était un litige à proprement parler, mais
oui, par rapport au sample.
Non, je veux dire que en gros, ah non, c'était pas par rapport à Hill Street Blues, c'était peut-être juste par rapport à l'instru de Retour aux Pyramides, mais il y avait eu un truc où les X-Men à la base voulaient l'instru de l'enfant seul.
Oui, c'est ça.
Et voilà, il y avait eu un. Et ça rappelait vachement. Je sais plus quel instru, mais il y avait eu un truc entre Cameron et Jay-Z je sais plus quel.
C'est pas Welcome to New York City.
Ouais, il y en a un qui voulait l'autre.
Ouais, exactement.
Mais il y a eu plein de prods comme ça entre les deux.
Ouais.
Et c'est marrant parce que c'est exactement ce style de rappeur aussi.
Il c'est son. Bah vas-y, pardon. Je vais parler.
Non, bah après, moi j'ai rien à dire de plus, tu vois. C'est pour moi. C'est
juste, moi je rajouterais parfait, parce que je rebondis tant que j'y pense. Quand tu dis genre freestyle
c'est genre un genre de grand freestyle ou en tout cas de trucs sur lesquels on pourrait se référer parce que il y a plein de petits caméos de tu vois de techniques de rap et tout genre ce qui m'est revenu en le réécoutant, j'avoue comme je l'ai beaucoup écouté, moi c'est un projet que j'ai pas streamé en fait. Moi que j'ai beaucoup youtubé quand je veux justement moi j'étais une kid qui voulait
après rapper. Vu les phases B je sais même pas ça doit être un merdier pas possible
non c'est dispo
ah ouais
c'est dispo
ouais.
Okay.
Non c'est dispo non là j'ai streamé okay. C'est la première fois que je le streamais okay. En fait okay. Là que je l'écoutais
on fait ce qu'on veut avec les phases B en fait
bah c'est bizarre
en l'occurrence tout est là ouais. Okay. Tout est là okay. Et du coup c'était la première fois que je pouvais l'écouter le lancer comme ça sur mon smartphone et aller courir genre d'habitude c'était vraiment le truc parce que moi j'étais comme ceux qui nous écoutent là et qui sont un peu plus jeunes j'étais ce truc de genre je voulais tout savoir et tout et donc ça c'est des projets que j'ai beaucoup youtubé que j'écoutais et comme j'avais pas les images et que j'étais obsédée fanatique de cette période là parce que je voulais trop savoir Time Bomb etc et tout quand j'écoute ce projet ça y a pas d'image mais ça me replonge aussi enfin ça me donne un aperçu en fait de ce truc de cette tradition des kickers et de ce truc de freestyler de soirée ce truc de on rappe à comment on pourrait dire ça on s'arrête plus de rapper parce qu'on
aime Valvolo quelque part.
Valvolo ou c'est un autre terme que tu dis souvent
c'est clairement
plus,
pas ça
c'est pas ça mais bref
à la bonne franquette
tu déroules tu déroules
attire la rigo
attire la rigo
c'est vraiment ça
c'est ça
c'est avant tu dis pas souvent ça du tout
non mais non tu dis pas ça souvent mais ça allait là okay. Inlassablement en tout cas c'est des mecs qui rappent inlassablement ouais. C'est à dire que et moi je sais qu'il y a plein de potes ou quoi qui me disaient mais enfin ouais ok c'est dur enfin ouais et puis ça c'est que ça comme pour Enfalche en fait pour l'ultime boucherie tu vois ouais. Où en fait le projet genre les gens comprenaient pas forcément que je kiffe écouter ce genre de truc où en fait c'est juste des petits bouts de quelque chose des petits bouts de moments des petits bouts de studio de séquences de vie et le fait et on reproche je sais pas si on reproche mais ça est un reproche qui a été fait qu'il ait jamais sorti quelque chose de tu vois, mais au final, si c'est pas ton truc et que ton truc c'est d'être un kicker qui veut juste le kick pour le kick, let's go, c'est ça qu'il faut écouter. Si tu t'es pas dans ce truc de DA, de machin, de prod, de truc, là c'est que le rap, tout pour le rap.
Et puis en plus, il y a un truc pour le coup qui le différencie, que ce soit par rapport à ses enfants, entre guillemets, tu vois, dans le rap français, ou même par rapport à d'autres mecs de son époque à lui, c'est que lui, il arrive de manière complètement naturel et spontané à te transmettre genre la joie qu'il a en fait ouais. De rapper et c'est ultra
et
communicatif
l'amusement et le fun
voilà ah, c'est ça ouais, c'est vraiment c'est genre ouais venez moi
et
voilà
c'est facile,
moi c'est ma passion et je suis heureux d'être là ouais, etc etc tu vois réel. Donc ouais ça c'est plus qu'une mallette de Proust parce que si t'isoles encore une fois les pas forcément les morceaux inédits mais je veux dire les morceaux
ouais, les solos
des structures de morceaux solos
les vrais morceaux ouais
ouais c'est des trucs c'est toujours costaud encore aujourd'hui tu vois
ouais. En fait moi j'ai longtemps eu un problème avec ce projet pas par rapport à sa qualité parce qu'en fait à cause de mon fanatisme pour le coup pour le rappeur j'étais très frustré qu'il y ait pas de vrai album et j'étais vraiment dans mon truc en mode il me faut un album définitif et c'était le cas avec beaucoup de ces rappeurs là de cette génération donc j'attendais qu'ils partent en solo je me dis il me faut un album j'en ai marre des mixtapes et en fait j'ai un peu changé d'avis sur ce projet-là quand j'ai eu la chance de l'interviewer. Où en fait, j'ai compris exactement ce que tu viens de dire, c'est que lui, il a jamais rappé pour faire un classique ou un album définitif. Il a très mal vécu son passage en major avec les X-Men, un album d'ailleurs qu'ils ont fait en une semaine. Tu vois, alors que c'était eux qui devaient être les stars de Time Bomb. Hein, c'est une histoire qui a souvent été racontée.
Après, faut préciser que même s'ils l'ont fait en une semaine, l'album est malgré tout agréable à écouter.
Bien
tu vois,
sûr,
parce que c'est les X-Men. Tu vois.
Mais qu'apparemment, ils ont fait des trucs comme quoi ils ont pris l'avance, ils sont allés en vacances, je sais pas où, et qu'en fait, du coup, ils ont bouclé ça en une petite semaine. Ça reste un super album, mais qui a pu décevoir parce qu'en fait, les gens ils voulaient que ça cartonne comme pour les autres, tu vois. Et ça devait être il la star de Time Bomb, mais ça l'a pas été en tout cas commercialement, même si c'était lui la star en vrai.
Ouais.
Et du coup en fait, j'ai vraiment compris ce truc-là. Je me souviens qu'il avait un discours que j'avais rarement entendu en mode je le fais pour la beauté du geste quoi.
Ouais c'est
je
ça.
Le fais, moi je rappe comme
c'est un esthète.
Ouais vraiment ouais, mais ouais. Pour de vrai quoi tu vois. Et ça je l'avais pas compris parce que moi je voulais tellement qu'il soit Jay-Z.
Mais c'est ça
en
tu vrai,
vois.
C'est
et,
ça.
Et lui en plus et je, voilà avait tellement en plus je pense le modèle Jay-Z. Ouais, d'ailleurs ouais, quand il sort encore des solos maintenant il a toujours une face pour Giga ou pour tu vois parce qu'en fait ça reste ça son rap et son esthétique. Mais voilà moi pour moi ça c'est extraordinaire en termes de rap. J'ai franchement rarement écouté des trucs aussi bien rappés que ça. Et en fait, toute la frustration que j'avais par rapport au fait que c'était pas un projet fini, mes couilles, tout ça, en fait, je m'en fous maintenant. C'est bon, ça y est, c'est genre juste trop bien, il est juste beaucoup trop fort. Et ça, je l'ai aussi compris en l'écoutant et en ayant son discours en mode...
Il t'explique pourquoi il a fait ça, quoi.
Voilà, en fait, il le fait pour le plaisir et c'est tellement rare et c'est tellement sincère chez lui.
On n'a pas l'habitude.
Oui, il m'a rappé un couplet de Jay-Z en anglais. J'avais deux bières dans le nez, j'ai failli pleurer. mais juste pour raconter la fois on l'a vu. La fois on l'a rencontré plutôt. On était avec.
C'était une fête de la musique.
En fait, non.
Non.
On était avec toi, et Théo Baldo avant.
C'était pas une fête de la musique.
Non, c'était la release party à la Favela Chic, je crois, de Dark Sun de Max, si je dis pas de bêtises.
Ah ouais, d'accord, ok. Ouais,
on
ouais.
arrive à la Favela Chic, d'ailleurs, big up à Théo du coup, et on a fait une préchauffe.
Oui, oui, clairement. Mais putain, mais en fait, il y avait trop de monde. Parce qu'il y avait aussi Fianso, Zecue Ramos, c'était n'importe quoi.
Zecue Ramos, etc. Des gens que moi, je connaissais pas encore, en tout cas, physiquement, je veux dire.
Fianso, c'était, ah, c'est vous, les mecs bleus. Ouais. Venez, on fume une clope.
Exactement, cette soirée était
folle. C'était fou.
Et je me souviens que j'arrive, et Daphné, donc, qu'on connaît, qui travaille avec Fianso, qui a été manager de Lino, je crois que, je sais plus si elle est encore, mais en tout cas, ils sont proches, bref. Elle me dit, ce qu'elle connaissait, parce que là je fais vite, mais elle connaissait, elle me dit Dieu est là ce soir. Elle me dit vraiment ça et je fais putain. Et donc vu que j'étais un peu chaud, je suis allé faire chier il, donc, je suis allé le voir et je lui dis il faut qu'on fasse une interview. Et au début tu sens que c'était bizarre et on a commencé à et on, là on avait vraiment genre je sais pas si tu te souviens mais c'était sombre quoi, c'était
ouais,
flou,
ouais.
C'était flou. Et c'est comme ça que j'ai en fait du coup j'ai eu le numéro de il et pour moi à l'époque avoir le numéro de il c'était incroyable. Et donc j'ai échangé avec lui, il m'a posé évidemment un premier lapin à Bassy où je l'ai attendu avec Diamantaire de l'Abster, il n'est jamais venu et finalement il est venu le lendemain et il m'a dit c'est pour moi c'est dur de raconter ça et, je sais pas, j'ai même aujourd'hui encore, j'ai failli pas venir, tu vois. Et en fait, après, il est resté, il a pas voulu partir, et c'était incroyable. Et pour moi, c'est genre une de mes interviews un peu genre très 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 importante dans ma vie, parce que je rencontrais un mec pour qui j'avais, c'est vrai, de l'admiration à l'époque, et surtout, j'étais pas déçu en fait, c'est-à-dire que j'avais vraiment, en fait, je trouvais mieux que ce que j'imaginais, c'est-à-dire que je trouvais juste un pur esthète du rap qui voyait ça comme un art et qui arrêtait pas de citer Federer parce que c'est un fan de tennis.
Ah, c'est un énorme fan.
Et d'ailleurs, on avait fait une séance photo avec une photographe qui s'appelait Anne-Laure, qu'il avait.
Donc il est shooté. Plus Federer que ouais. Il est...
Ah lui c'est Federer.
Okay.
Lui c'est Federer. Ce qui est un peu bizarre, c'est que Federer c'est un champion et que lui quelque part t'as un peu c'est plus le perdant magnifique, tu vois.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est plus pour la beauté et l'élégance.
Ouais.
C'est Federer à fond. Par contre, il avait pas envie, je pense, de faire les sacrifices pour devenir Federer, ouais. Tu vois. Je pense qu'il a juste envie de jouer quand il a envie de jouer. Et voilà, d'où sa carrière, tu vois, qu'on peut voir comme une carrière en dents de scie si on veut. Mais en même temps, qu'on peut aussi voir comme la carrière d'un mec qui a, genre, influencé 36 000 ouais, personnes et qui a laissé finalement des pièces mémorables, quoi. Mm. Dont celle-ci. Même si c'est 2h40, etc., que c'est compliqué, voilà, en termes de rap, c'est ultime en fait, ultime. Et puis c'est pas que de la technique, c'est aussi des choses qui sont dites. Moi, il y a toujours un truc qui dit, je sais plus sur quel morceau, mais il dit respect à mes vrais gars, rare comme la chance, tu vois. Et en fait, donc il y a des trucs dans l'écriture qui sont, c'est pas juste, je vous en mets plein la vue, c'est même
non,
pas
non,
ça du tout.
Non, pas du
en
tout.
Fait, c'est juste, au contraire, tout est facile et tout est fluide. Ouais, et c'est pour carrément. Ça que c'est. Et j'en parlais tout à l'heure en interview avec. Mais la technique, ce qui est beau, c'est quand tu la vois pas en fait,
ouais,
tu vois.
Ouais,
c'est pas quand tu fais même en foot, quand tu fais 3 fois 3 000 gris-gris et 3 000 passements de jambes, c'est ridicule. Mais quand c'est juste élégant, juste le petit crochet, juste la. Tu vois, la petite chaloupe, pour faire une référence au top 5.
Ouais.
Voilà, donc pour moi, c'est... Ouais, bref, c'est...
C'est une belle pièce, quand même.
Pour moi, le rap, c'est ça, en fait. Moi, enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais moi, en tout cas, pour moi, c'est ça, le rap.
Voilà.
Et même si j'aime plein de trucs, même si j'aime Corleone et j'aime Rime Passionnel, pour moi, le rap, c'est il et c'est ainsi soit-il.
Mais ouais, non, après, alors moi, je me rappelais même plus de la Favela Chic, mais je pense que je l'avais pas capté, hein, moi, là-bas.
Bah, je suis peut-être allé le voir tout
moi,
seul.
Moi, je devais être deux en train de bédaver. Ça devait être n'importe quoi. Mais par contre, après, ouais, il y avait une fête de la musique. Et là, il y avait vraiment beaucoup de gens. Il y avait encore Daphné dans le coup.
Aussi,
mais
elle bossait, je crois, un peu avec eux.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, t'avais eu Ify, Cassidy, donc Hill. On s'était retrouvé dans une soirée organisée par Dabaz de Triptych. Et il y avait.
Ah, c'est Kanaki Kit, non?
Parce non, c'était soirée rappeler. Plus club que
d'accord.
Concert.
Ah, c'était Poison Pearl de l'entrée.
Ouais, je pense que c'était ça. Et t'avais Ekoué qui était là, qui filmait le cul d'une meuf, et ça s'était retrouvé dans un clip. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Mais...
Non, on peut dire que t'es apparu dans un clip d'Ekoué.
Ah ouais, exact. Oh, ouais. Exact, ouais, ouais. Mais bref, et après, en fait, avec Daphné, on se retrouve, je crois, seul avec Hill. Et on se part de plein de trucs. Et mes parents, je me rappelle avec précision d'une anecdote qu'il avait. C'est donc, ça devait être période Time Bomb. Et il se retrouve à exceptionnellement faire le même chemin en métro que Booba, mais genre un truc super long. Je sais plus quelle ligne de métro. Et qu'en gros, lui, de son point de vue, donc t'as Booba qui est déjà en mode, qui réfléchit comme un businessman, etc., et qui lui dit, en vrai, dans Time Bomb, tu vois, il y a toi et il y a moi, tu vois, machin. C'était à la limite ça, le discours. Et il, quand il te raconte ça, il est en mode, bro, c'est genre une façon marrante de voir les choses. C'était vraiment le, ouais, pas du tout le vraiment. Côté carnassier, pas du tout.
Exactement.
Ça. Mais ouais, 300% artiste. Donc ouais, c'est... Ouais.
À fond.
Ça explique à peu près ce qu'il est dans le rap français, quoi, tu vois.
Est-ce qu'on classe?
Ouais.
Juste avant de classer, vu que ça fait longtemps qu'on parle, et que juste pour le dire aux auditeurs, on a envie de faire un deuxième épisode après, est-ce qu'on peut se dire qu'on fait pas le dernier? Qui était une blague.
Et qu'on passe direct, on pourra dire
la blague si on veut. Okay, mais comme ça, on essaye de vraiment faire le deuxième épisode. Ok, super. Donc, ainsi soit-il, où est-ce qu'on le met? C'est toujours un peu compliqué parce que c'est pas un album et qu'on compare parfois des courgettes et des pommes de terre. Mais voilà, en tout cas, il faut le classer. C'est toute la beauté de cet exercice. Ce qui est bien maintenant, c'est dans ce classement, c'est qu'on a des repères. Tu sais, il y a des éléments, on dit, on peut pas le mettre
au-dessus. Mais en fait, en même temps, ça te fout dans la merde.
Ça te fout dans la merde, fait, carrément.
Moi,
bah,
je t'en prie, surprise, excuse-moi.
Je le mettrais au-dessus de Supreme NTM, pour ma part.
Au-dessus de Cyborg, donc?
Oui, parce que, ouais, c'est un peu logique.
Évidemment.
Ouais.
Ce sera toujours ça à chaque fois.
C'est quoi ce marqueur Cyborg?
J'adore Cyborg.
Mais j'ai même envie de le mettre au-dessus de Mala, tu vois.
Non, mais.
Parce que Mala, c'est l'album est mieux construit, donc c'est peut-être ça qui va faire la différence entre les deux et tout. Mais non, je mets Il en 5.
Ok.
Tu viens de me convaincre. En fait, je voulais même le mettre plus haut, peut-être. Mais en fait, Shuriken où je vis, c'est un putain d'album construit, cohérent, tout ça. Donc j'aurais du mal à le mettre au-dessus de Shuriken en termes de pièces. Okay. T'arrives ni fin.
Mais rien, je suis en train d'essayer de regarder le tableau, mais c'est vrai bien. Tu me laisses tranquille maintenant.
Mais je le mets en 5e aussi. Mais. J'ai plus écouté sa cassette. Hein.
Ouais, tu vois, le Shuriken, il te bloque.
Dis-leur les choses.
Alors moi, personnellement, je le mets en 2. Dans le sens où...
Bah, comment ça va parler français, là, parce que...
Bah, c'est-à-dire que, en fait, là, c'est pas un élève, c'est le professeur.
Oui, mais, tu peux faire un meilleur projet que ton maître.
Ouais, mais là, c'est pas le cas. Déjà, parce que Alpha, sur ce truc-là, il peut te faire glisser sa technique, mais il est quand même rarement dans le côté joie communicative du truc. Et surtout, il est hors de question que je mette Alpha One au-dessus d'un truc avec marqué retour aux pyramides dans son tracklist. Donc non, c'est pas possible.
Juste pour le couplet.
Bah ouais.
Je sais pas. Moi, je réfléchis en termes de.
Il y a l'original de Momoné. Enfin, il y a tout
oui,
son.
Oui, mais on juge des pièces. Soyez cohérents.
C'est pour ça. Moi, non, c'est là. Je cite des morceaux
cohérent,
qui sont.
Tu voulais mettre en fâche en 3 à la base. Donc c'est cohérent. Il y a pas de problème. Bah. Je m'adresse à Nifal.
Ah non, mais moi, je suis pas quelqu'un de cohérent. Faut le savoir. L'idée, c'est que je suis pas du tout cohérent. Moi, il va être deuxième aussi, tout simplement parce que vous avez peut-être l'impression, ou vous avez le droit, et vous avez raison d'affirmer que MLA, c'est un meilleur projet, ou c'est un vrai projet, en fait. C'est même pas que c'est un meilleur projet.
Mais il me semblait qu'on jugeait les projets, mais après, si on change les règles en cours.
Maintenant, pour moi, j'ai plus écouté, et comme quand j'ai dû trancher entre La Fierté des Nôtres et MLA, d'ailleurs, UMLA, c'est une belle pièce, on va dire que c'est un Hermès, là, que je pourrais aller chercher maintenant, en boutique. Maintenant, le Hill, c'est un Hermès vintage que tu peux pas trouver. Tu peux pas le trouver, quoi. Genre, c'est une pièce.
Mais il est un peu troué, quand même.
Ah non.
Non. Très belle image.
Il faut aller le nettoyer, il faut aller un peu le retoucher. Je vais voir maman, elle va essayer de me rattraper tout ça. Mais.
Toi, t'es en train d'essayer de défendre Scream face à Psychose, c'est n'importe quoi.
Pas du tout.
Mais si.
Parce que Scream, c'est pas un bon film. Wow. C'est un film ok, tu vois. Moi, je m'en fous.
De toute manière, on est pas en train de.
Étant un dans tout ce qu'on a là, j'essaie juste moi d'être cohérent avec ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire.
Non mais cherche pas de la cohérence dans ce classement, mais dis.
Pour moi tout est cohérent. Pour moi il y a aucun problème.
C'est ça le gros problème.
Non aucun problème.
Mais voilà, on discute beaucoup trop parce que sinon on doit tout remettre en question là.
Mais parce que là ça parle du top 3, donc c'est forcément un peu plus impact, tu vois. Moi j'essaie juste d'être cohérent avec.
Mais je comprends tous les arguments en tout cas.
J'adore cette tu vois, on sait même pas quoi dire. J'adore ce projet. J'ai dit tout le bien que je pense. français. J'ai dit, pour moi, c'est ça le rap. Par contre, si je juge des films, des albums, il y a des films faits par des gens moins talentueux qui sont meilleurs que d'autres. C'est tout. C'est comme ça. Et donc, je trouve que UMLA est une meilleure œuvre que Ainsi soit-il. Après, évidemment, il c'est le maître. Oui, bien sûr.
Mais c'est quoi l'équivalent sur UMLA
correct,
de...
Poétiquement correct, tu peux pas le mettre devant UMLA. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai écouté.
Oui, mais le truc, c'est qu'en fait...
Oui, mais il n'y a pas de pari de faire un album. C'est pour ça que du coup, je vais pas envie de spoiler parce qu'on va
mais
parler...
Mais du coup, ça peut être une facilité.
De politiquement correct.
Ah ben, je fais pas un album, une compil
mais c'est nous qui avons
de
décidé...
scènes qui sont jolies.
Bah oui, mais du coup, nous, on a décidé d'en parler dans les projets, dans les top albums.
Moi, je compare des choses qui, pour moi, sont comparables. Donc,
bah oui, mais il y a plein de trucs qui sont...
Ou un, si vous voulez.
Mais en fait, il y a calculatrice à la fin.
Il y a des EP, il y a des mini EP, il y a des compiles, il y a des mixtapes. Donc du coup, on est parti sur un truc de quelqu'un propose quelque chose.
Tout à fait.
Tu vois, il y a des double albums, il y a de tout. Donc on a décidé de nous d'aller dans
un album, c'est un album.
Oui, mais tu vois, genre des fois, genre j'ai mis La Fierté des Nôtres en 1 parce qu'il y a plus de propositions, parce qu'il y a plus de morceaux par rapport à Alpha en fait. Des fois, ça joue à des trucs.
Ouais, dans tous les cas, on aura tous une perception différente.
Et
même
en fait,
de ce
sur lui, sur
non, arrête d'arrondir les ongles. C'est important.
Non, mais c'est important qu'on ait des discussions. On est de famille, Sandra.
Non, mais après, le truc, c'est que, même si tu virais les bouts de couplets ou les freestyles ou le truc, ça reste toujours au-dessus du MLA, en fait. Tu peux rien faire face à un mec qui va juste arriver avec ses classiques.
Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est trop facile de se dire ah ouais, moi comme j'ai pas fait le pari de faire un album et de faire un classique, et bah du coup on m'évalue un peu plus de manière j'ai pas les mots, indulgente, voilà. Mais sans doute que c'est la facilité, mais moi maintenant c'est que j'ai une écoute, ça y est, j'ai maturé, j'ai mûri les écoutes de ces deux projets là et j'ai donné tout mon amour et je ne fais que ça chaque jour que Dieu fait, donner mon amour à cet artiste là Alpha One. Mais le truc c'est que le projet, ce truc là, cette pièce là qui a des défauts, en fait qui a des défauts qui n'en sont pas vraiment, parce qu'en fait c'est genre j'ai pas voulu faire d'un album, donc je ramasse à gauche à droite toutes les pièces de cet appartement et puis je les rassemble au milieu et puis vous en faites ce que vous voulez, c'est génial, c'est mieux que tout le reste derrière en fait.
Moi je suis d'accord avec le fait que c'est génial. Moi en vrai, ce qui m'embête, je pourrais le mettre, c'est ce que j'ai dit au début, devant A7, mais c'est là toute la beauté de ce classement, c'est que j'ai du mal à le mettre devant Shuriken où je vis, qui est une œuvre, tu vois, que je trouve voilà plus abouti, plus massif, plus réussi. Donc c'est là où j'ai mon souci sur le classement. Voilà.
Bester,
on
c'est
s'est
une
dit
oeuvre,
les choses.
C'est
je propose de faire la moyenne.
Mais concrètement, il rappe mieux que Shuriken sur.
Mais il rappe mieux que tout le monde. Dans ce cas, il rappe mieux que Rof. Dans ce cas, si on juge le rappeur, on met numéro 1. Fin du truc.
Ah non, parce
en
que
fait.
Moi, en fait, le seul truc, c'est que Rof, c'est aussi un double où j'ai aussi des trucs à virer. Donc en fait, là, ça joue juste sur le fait que Rof, il a pas de face B. Mais si par exemple c'était Rof avec des phases B ou des bouts de freestyle, je mettrais Hill au-dessus de Rof sur ce truc-là. Même si je gardais mes morceaux préférés de La Fierté des Nôtres, tu vois.
Prenons cette petite calculatrice.
Ouais, moi, je pourrais le mettre 4. Mais en vrai, ça m'embête parce que je trouve que déjà que Shuriken, il est trop bas. Sauf qu'il aurait dû être 3 déjà.
Donc ça fait.
Après, il y a plein d'épisodes où on a quand même rappelé que ça, c'était un truc qu'on avait plus écouté.
Bien
que
sûr.
Autre,
oui.
Ah,
ouais. Mais là, de toute façon, il va être bien, là, hein.
Oui,
donc là, ça fait
5-5-2-2.
Donc ça fait 14 par 4, 3,5.
Bah, choisissons du coup.
3,5 pile ?
3,5 pile.
Jusqu'au bout, il nous aura embêtés. Jusqu'au bout, donc, cet homme, c'est un problème.
Soit il prend la place de SCH, soit la celle de Shuriken.
Bah, tant qu'à faire, moi, je le mets en 3, si ça te va. Eux, ils seront d'accord.
Non, mais oui, oui.
Ouais, moi ça me va.
Pour en termes de voilà, ouais. Rappeur, Hill, tout ce qu'on a dit, on a dit c'est
une grosse entrée de Hill, ouais, le meilleur des Hill, le GOAT.
Mais belle entrée de Hill et de Joke hein au final hein. Joke ouais. Qui va se retrouver 10e et c'est un classement qui commence à avoir de la bagarre, commence c'est bien ce qui se passe. Et alors bien. Sur le classement de la semaine prochaine.
Ça va être un merdier.
Ouais, on va peut-être parler que de deux projets.
Là, non, on va être intense. Là, c'était rien aujourd'hui.
Là,
hein.
C'était rien du tout. C'était rien du tout. Ok.
Eh ben, écoutez.
Ben, c'est beau, hein.
Ouais, ouais. Ça va, c'est sympa.
Beaucoup d'amour pour les Gilles.
Ouais. Les Gilles du rap.
Ah oui, du coup, faut préciser qu'il nous manquait un Gilles.
Oui.
Et donc, à la base, j'ai dit, à ce moment-là, on a qu'à prendre Al Capote, vu que sur une sombre mixtape de DJ Belek, il avait rappé, c'est Al Capote, alias Gilles de la Tourette.
Oui, il rappe sur Akon, Sexy Beach.
Atroce. Dans mon souvenir, c'était pas le truc de Bellec avec les instrus électro.
Si, Sexy Beach de DJ Guetta, David Guetta et
D'accord,
et
okay.
OK. Sexy où il rappe sur un instru de Sexy Beach. Donc mais voilà, c'est cette cover là
on va reparler de d'Al Capote.
Évidemment, Sandra, évidemment qu'on va reparler d'Al Capote.
91, il va être
beau. De la Tourelle, Jonathan H, l'aigle du Carthage, bien sûr qu'on va reparler d'Al Capote. Un jour.
Ouais.
On se fait des bisous, on se dit la semaine prochaine.
Bisous.
Allez, salut.
Salut.